Vous êtes sur RTL.
C'est bon pour le jardin.
Hein ah, voilà. Non, mais disons.
Vous êtes concerné en matière
oui, oui, absolument, mais je fais attention maintenant.
Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse, ça.
Non, mais je fais attention à ma pelouse.
30 secondes pour vous imaginer en train de biner.
Non, non, pas moi. Mais enfin, je vérifie là. Je fais attention à la pelouse quand même. Voilà. Vous voulez que je vous raconte ma vie?
Bah, non, non, mais c'est intéressant. Un petit échange comme ça. Jérôme Florin, bine le week-end. Voilà, moi j'aime bien cette notion.
Je vous souhaite une bonne émission.
Bonne émission. Et bien entendu, c'est avec grand plaisir que nous retrouverons Louis Bodin pendant toute cette matinale. Ce matin, RTL, en tout cas, veut vous aider à faire baisser vos factures énergétiques, en particulier celles du gaz. Je vous rappelle ces chiffres affolants. Hein. On attend une hausse de 12% le mois prochain, mais elle est d'ores et déjà de 57% depuis le début de l'année. Rendez-vous donc à 7h15, 7h15 avec Valentin Boisset. Et à 7h35, François Langlais nous expliquera l'une des vraies causes de cette hausse des tarifs, en l'occurrence, la politique internationale de la Russie et de Vladimir Poutine à l'égard de l'Europe. Autre sujet de préoccupation, les plus de 200 000 postes vacants dans l'hôtellerie-restauration en pleine reprise économique. Et alors que les salaires peuvent être discutés, nous ferons le point avec l'économiste Mathieu Plane dès 7h20. Enfin, l'émotion avec aujourd'hui la cérémonie d'hommage pour le caporal-chef Maxime Blasco. Il a été tué au Mali la semaine dernière. Alba Ventura reçoit le colonel Erwan Le Calvez. Il est le chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, auquel appartenait le caporal-chef Maxime Blasco. Parmi nos rendez-vous de détente, Laurent Gérard et toute son équipe à 9h15 et Cyril Lignac qui leur prépare un délicieux brownie au chocolat. Bien entendu, nous sommes le mercredi 29 septembre 2021. A tout de suite. Très bonne journée sur RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'amour après la mort, témoignage bouleversant ce matin sur RTL de la compagne de Maxime Blasco.
Alexandra veut l'épouser à titre posthume. Emmanuel Macron, lui seul, peut le décider à quelques heures de l'hommage national qui sera rendu à ce soldat mort le week-end dernier au Mali. Il n'est pas encore candidat, mais sa percée dans les sondages est devenue le fait politique de cette rentrée. Éric Zemmour est à 13% selon une dernière étude. 3 points seulement derrière Marine Le Pen, qui elle est en baisse. Toutes les heures, en France, nous jetons 1000 tonnes de nourriture en cette journée contre le gaspillage. Gros plan sur une application qui permet de récupérer chaque soir, pour pas cher, les invendus de la journée. Et puis les grands matchs pour les grands joueurs, on connaît l'adage. Lionel Messi a été moyen hier soir, mais il a suffi d'un éclair de génie et d'un but pour faire chavirer le Parc des Princes. Victoire 2-0 face à Manchester City.
La politique, Olivier Bost.
Et puisqu'on parle des sondages, nous verrons que les intentions de vote bougent très vite, de plus en plus vite même.
C'est votre rendez-vous dès la fin du journal.
RTL Matin.
Rester une famille à jamais, c'est un témoignage à la fois beau et bouleversant que vous entendez ce matin sur RTL. À 16h30 tout à l'heure, la France rendra hommage donc aux invalides, au soldat Maxime Blasco, tué le week-end dernier en opération au Mali. Et sa compagne Alexandra s'est confiée ce matin sur RTL. Elle demande à Emmanuel Macron une faveur rare que lui seul peut décider.
J'ai demandé à être mariée à titre posthume à Maxime. C'était un désir qu'on avait et pour honorer sa mémoire et porter son nom, ce sera une fierté.
Ce mariage, vous allez le demander au président de la République, Monsieur Macron ?
Oui, je vais lui demander juste à devenir sa femme de manière officielle et légale. J'ai demandé à ma belle-famille leur accord quand même. Et puis mon fils, quand je lui ai dit que je faisais cette demande, il a crié de joie, il était content et c'est ce qu'il a voulu. Et du coup, je me dis que c'est important comme ça pour nous reconstruire.
Donc bientôt, vous vous appellerez Alexandra Blasco.
C'est ça. Je pourrai afficher fièrement de changer de nom et de devenir Madame Blasco.
Maxime, il sera toujours dans votre cœur.
Toujours. Jusqu'à mon dernier souffle. Je ne l'oublierai jamais. C'est pour ça que je ne dis pas je l'aimais, je l'aime.
Voilà les mots très beaux et très émouvants d'Alexandra au micro de Serge Peillot. Vous retrouvez son témoignage en intégralité sur le site RTL.fr.
RTL 7h02, il n'est pas encore candidat, mais Éric Zemmour continue de grimper dans les sondages.
Oui, il est à 13% d'intention de vote selon la dernière étude Harris Interactive pour Challenge. Et c'est lui qui progresse le plus, Benjamin Sportouche.
Oui, Éric Zemmour poursuit son ascension. Le polémiste prend 6 points en 3 semaines, passant de 7 à 13% des intentions de vote. Une hausse principalement au détriment de Marine Le Pen, qui n'est plus qu'à 3 points devant, un coup dur pour la présidente du Rassemblement National. La droite aussi accuse le coup. Certes, Xavier Bertrand ne bouge pas à 14%. En revanche, Valérie Pécresse, elle se retrouverait à la traîne à 1 point derrière Éric Zemmour. Et puis, l'autre gagnant de ce sondage, Harris Interactive, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, engrange 2 points et se retrouve au même niveau que l'ancien éditorialiste de CNews. Enfin, la dispersion des voix à droite et à l'extrême droite de l'échiquier profite à Emmanuel Macron. qui creuse l'écart. Le président sortant est loin devant à 24%. Reste à savoir l'effet qu'aura une déclaration officielle de candidature d'Éric Zemmour, à la hausse ou à la baisse. Les dernières campagnes présidentielles nous l'ont montré. C'est un moment crucial.
Merci Benjamin Sportouche, chef du service politique d'RTL. La percée d'Éric Zemmour, qui est donc l'un des faits politiques de cette rentrée. Et d'ailleurs, pour la première fois, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le polémiste hier, critiquant sa proposition d'interdire les prénoms étrangers. Notre identité ne s'est jamais bâtie ni sur le rétrécissement, ni à des prénoms, a déclaré le président de la République.
Alors lui, pour le coup, est officiellement désormais candidat pour Europe Écologie Les Verts.
Oui, avec 51% des voix, Yannick Jadot a donc battu Sandrine Rousseau. On parlait de ce sondage à l'instant, lui est pointé à 6% d'intention de vote. Et va devoir maintenant rassembler son camp après la primaire, Bénédicte Allaire.
J'appelle au rassemblement des écologistes, au dépassement du pôle écologiste, pour que nous allions ensemble jusqu'à l'Élysée, pour une nouvelle pratique du pouvoir au service des citoyennes et des citoyens. Oui, il est temps de tout changer. Avec vous, grâce à vous, je serai le président du climat.
Yannick Jadot, hier au micro donc de Marie-Bénédicte Allaire. En bref, comment faire baisser la facture énergétique alors que les prix du gaz ont augmenté de 57% depuis le début de l'année? RTL vous donne de bons tuyaux ce matin, avec notamment pour ce qui est de l'électricité, la possibilité de se rassembler à des milliers de consommateurs pour faire masse et pour négocier ensuite les prix à la baisse. Ça a déjà été fait. Les détails avec la brigade RTL de Valentin Boisset juste après ce journal. Et puis à propos d'ailleurs des prix du gaz qui s'envolent, d'après les informations d'RTL, Bercy n'envisage pas de baisser la TVA comme le réclament plusieurs associations, mais travaille sur une nouvelle extension du chèque énergie.
Dans un instant sur RTL, le fléau du gaspillage alimentaire. Nous jetons toutes les heures en France 1000 tonnes de nourriture. Vous avez bien entendu, 1000 tonnes de nourriture. On va vous expliquer comment une application tente aujourd'hui de lutter contre le phénomène. Restez avec nous, à tout de suite.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Et ce chiffre hallucinant, hein, 10 millions de tonnes de nourriture jetées à la poubelle tous les ans en France.
Et donc si on fait un calcul rapide, ça fait effectivement 1000 tonnes par heure de nourriture gaspillée, tous les invendus des grandes surfaces ou des petits commerces de bouche. Et du coup, depuis 2016, vous pouvez télécharger l'application numérique Too Good To Go, qui rassemble en fait 22 000 commerçants qui tous les jours indiquent chaque soir ce qu'ils sont en passe de jeter. Les clients peuvent alors venir pour profiter au dernier moment des bonnes affaires, Sophie Jousselin.
Bonjour madame.
Marie-Claire est une habituée de la boulangerie Le Panier.
Je vous donne mon petit sac. Oui. Si vous en avez pas assez, j'en ai un deuxième.
Il faudra bien les deux sacs pour emporter les invendus du jour.
Regardez, c'est du pain au raisin et aux noix. Il est tout frais. Et là, il y a des croissants aux amandes, des pains au chocolat. Ce sont pommes, brioches, c'est généreux.
Cette boulangerie de Neuilly propose les paniers Too Good To Go depuis un an. D'une valeur de 12 à 20 euros, ils sont vendus 3,99 €. Et le soir, Vanessa jette beaucoup moins de marchandises à la poubelle.
On en fait souvent 8 paniers à peu près. Ça nous aide quand même à écouler une partie de la marchandise qu'on ne vend pas. Oui, le 3 quarts en général. Autant que ça aille aux gens que ça parte à la poubelle.
Marie-Claire est retraitée, fait attention à ses dépenses, mais surtout, elle ne veut pas gaspiller.
Je ne gaspille jamais rien. J'achète pas des choses que je vais pas manger. Même quand on a des yaourts qui sont à la date du jour, je les mange après.
Les bras bien chargés, Marie-Claire rentre chez elle, congeler ses pains et ses viennoiseries.
Au revoir, à bientôt.
Merci Sophie Jousselin. Et on rappelle donc le nom de cette application anti-gaspillage Too Good To Go. En bref, ce chiffre que l'on découvre également ce matin dans le journal Le Parisien, entre 14 et 17% du tabac consommé en France est acheté sur le marché parallèle. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire, avec un chiffre particulièrement parlant dans les zones frontalières, que ce soit avec l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne. Au moment du confinement, quand plus personne ne pouvait traverser les frontières, et bien les ventes de tabac dans ces régions, côté français, ont augmenté de 44%. Et puis la lave du volcan entré en éruption il y a 10 jours sur l'île de La Palma aux Canaries a finalement atteint l'océan cette nuit. Cette rencontre entre la lave en feu à plus de 1000 degrés et l'eau de mer est particulièrement redoutée en raison de la production possible de gaz toxiques. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été mis en place.
7h09, on a donc vu le premier but de Lionel Messi au PSG.
Et oui, exactement, un éclair de génie à la 74e minute, une frappe limpide en pleine lucarne sur une remise en plus de Mbappé. Lionel Messi a été à la hauteur pour une victoire donc 2-0 face à Manchester City. Et c'est toute l'équipe l'équipe du PSG qui a haussé le niveau, Philippe Sanfourche.
Oui, ça y est, le déclic en combinant succès de prestige sur le champion d'Angleterre et premier but de la recrue star Léo Messi. Les Parisiens ont sifflé le véritable coup d'envoi de leur saison. Presnel Kimpembe au micro du groupe Altice.
Ah, on espère, ça a été un bon match ce soir. C'est encore le début de la compète, mais voilà, ça, on est tous très contents et on espère qu'on va continuer sur cette voie-là.
Dans un Parc des Princes en fusion, atmosphère exceptionnelle pour Régis, supporter parisien.
L'ambiance qui se crée aussi autour du parc là maintenant. Et en Ligue des Champions, il y a quelque chose en plus quand même que d'habitude. Les gens vivent différemment les matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas photo, on sent vraiment un engouement important.
À la hauteur des attentes, les stars ont su répondre présent. Mbappé décisif, Neymar travailleur, avec mention spéciale au métronome italien Marco Verratti. Même l'entraîneur adverse Pep Guardiola est tombé sous le charme.
I'm in love.
Je suis amoureux. Sous pression, il parvient à faire la passe parfaite. Un joueur exceptionnel.
Un véritable concert de louanges. Paris en un match a retrouvé son étiquette de favori.
Merci Philippe Sanfourche. Le PSG donc désormais leader de son groupe ex aequo avec Bruges qui est allé battre Leipzig de buts à 1. A noter la défaite du Real Madrid face au modeste Moldave du Sheriff Tiraspol dont c'était la première participation.
Sheriff Tiraspol, oui voilà je connaissais
c'est
pas.
C'est la première participation du club en Ligue des Champions. Benzema tout de même a marqué. L'Atlético Madrid a battu le Milan AC 2-1 et là encore Antoine Griezmann Cocorico a lui aussi marqué un but. La suite de la compétition ce soir avec Lille qui se déplace à Salzbourg à 21h. Mmh. Et puis, nous n'y échapperons pas aujourd'hui.
Très bien.
The name's Bond. James Bond.
Le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, a été présenté à Londres hier soir. Le film sort mercredi prochain en France. Stéphane Boutsog pour RTL a pu aussi assister lui à l'avant-première hier à Paris. 2h43 de film, toujours aussi spectaculaire, mais avec un Daniel Craig plus humain que jamais, avec ses failles, paraît-il. Stéphane a beaucoup aimé. Il nous racontera tout à l'heure avec vous, Yves, à 8h15.
Et c'est la dernière apparition de Daniel Craig dans un rôle de James Bond, je le rappelle. Les courses, elles ont lieu à Argentan.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 12, le 16, le 6, le 3, le 8 et le 10. La dernière minute, c'est le 6.
Le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois sur RTL. Il est 7h12, la politique avec vous, Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Un nouveau sondage Harris Interactive Challenge sur l'élection présidentielle montre les bouleversements dans l'opinion. Marine Le Pen dégringole à 16% des intentions de vote. Éric Zemmour monte à 13%, tandis que Xavier Bertrand se maintient à 14% et Emmanuel Macron à 23%. Ça bouge et ça bouge de plus en plus fort, Olivier.
Bah oui, parce que Marine Le Pen a perdu, mine de rien, 12 points en 3 mois. Elle est passée de 28% d'intention de vote à 16% de la fin juin à aujourd'hui. C'est colossal, mais il va falloir s'y habituer. Les Français ne sont pas satisfaits de l'offre politique actuelle, donc ils changent d'opinion très vite. L'actualité récente, toutes les périodes de turbulence que nous avons vécues viennent accréditer et renforcer ce constat.
Qu'est-ce que vous avez comme exemple ou comme comparaison ?
Eh bien, des dégringolades encore plus impressionnantes, de 50, 60 points. Au début des Gilets jaunes, par exemple, jusqu'à 8 Français sur 10 soutenaient ce mouvement de protestation. Un soutien massif qui a dégringolé en quelques semaines pour finir à moins d'un Français sur 5. Je vous donne un autre moment de très forte volatilité de l'opinion. En décembre dernier, quand apparaissent les vaccins pour lutter contre le Covid, 8 Français sur 10 sont sceptiques ou prudents. Ils préfèrent attendre de voir. Puis la confiance gagne, avec des changements de point de vue massifs, jamais vus de mémoire de sondeur. Aujourd'hui, presque 8 Français sur 10 sont vaccinés. Ça n'a plus rien à voir.
Mais est-on sûr que c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'avant ces évolutions des intentions de vote ?
Alors, des accidents industriels, il y en a toujours eu. Édouard Balladur, souvenez-vous, en 1995, a mis 9 mois pour passer de 28% à 16% des intentions de vote. C'est-à-dire 3 fois plus de temps pour perdre autant de points que Marine Le Pen. Mm-hmm. Plus récemment, Benoît Hamon, en 2017, quand il est désigné candidat socialiste, est à 16%. Il finira à 6%, moins 10 points en 3 mois.
Bon, ça va continuer ces mouvements d'opinion erratiques.
Oui, parce qu'en fait, rien n'est stabilisé à gauche, notamment. Et c'est Jean-Daniel Lévy d'Harris Interactive qui fait cette analyse à l'extrême droite. Marine Le Pen est en train de se faire siphonner par les deux bouts, à la fois dans son électorat le plus fidèle et dans les électeurs de Fillon, déçus par la droite, qu'il avait rejoint depuis 2017. Ce mouvement n'a pas de raison de s'arrêter brutalement. Et ce qui est encore plus inquiétant pour Marine Le Pen, c'est qu'elle perd dans deux catégories qui votent, qui ne s'abstiennent pas, les catégories les plus aisées et les plus âgées. Une situation très délicate donc pour Marine Le Pen, parce que dans une présidentielle, les courbes se croisent souvent, Mais les courbes, les tendances ne s'inversent quasiment jamais.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Olivier Bost. À 7h40 aujourd'hui, Alba Ventura reçoit le colonel Erwan Le Calvez. Il est le chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, auquel appartenait le caporal-chef Maxime Blasco, notre soldat décédé en opération au Mali, avant l'hommage qui lui sera rendu donc cet après-midi aux Invalides.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 7h15, plus 12% le mois prochain, plus 57% depuis le début de l'année. Le prix du gaz continue de grimper mécaniquement. Le prix de l'électricité devrait lui aussi augmenter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le magazine UFC Que Choisir redoute une nouvelle hausse de 10% début 2022 pour l'électricité. Alors ce matin, nous allons tenter avec notre brigade de vous donner quelques astuces pour limiter cette hausse, voire même tenter de faire baisser le prix de la facture. Valentin Boisset, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
L'énergie est un milieu concurrentiel. Votre mission ce matin, c'est de faire jouer la concurrence pour faire baisser la facture.
Oui, première solution, comparer les prix. Prenons l'exemple d'une famille de 4 personnes, 3 chambres, 120 mètres carrés avec un chauffage au gaz. Je consommerai environ 15 000 kWh de gaz naturel par an, soit au tarif réglementé une somme de 1 400 euros. Mais sur Internet, la concurrence montre des prix bien plus bas. Grâce à un simulateur d'UFC Que Choisir, je découvre qu'avec le fournisseur le moins cher, je paierai 1 171 euros, soit 220 euros d'économie par an. Pour faire descendre les prix, les fournisseurs négocient l'achat du gaz naturel au bon moment lorsque les prix baissent. Cela marche pour le gaz, mais moins bien pour l'électricité où la concurrence est moins développée.
Alors pour l'électricité, il y a quand même une autre astuce apparue il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle l'achat groupé, Valentin.
Oui, 22 millions de Français se chauffent à l'électricité. Les achats groupés sont efficaces pour faire baisser les prix. Il s'agit de s'allier avec des milliers d'autres consommateurs, puis de faire un appel d'offres. En 2019, UFC Que Choisir a réuni 256 000 personnes. Résultat, un fournisseur leur propose 16% de réduction par rapport au tarif réglementé. Je reprends donc ma famille. En plus des 15 000 kWh de gaz, je consomme 2000 kWh d'électricité par an, soit 500 euros. Si j'avais pris ce tarif groupé, j'aurais économisé 80 euros en une année juste sur l'électricité. Alors si vous ne souhaitez pas vous lancer dans toutes ces démarches, la solution la plus simple reste de baisser votre consommation en débranchant par exemple tous vos appareils en veille. Un geste simple qui permettrait, selon l'Agence de la transition écologique, d'économiser jusqu'à 10% sur votre facture.
Rien que ça, c'est faramineux. Mission accomplie, Valentin Boisset de la brigade RTL. Dans un instant, RTL événement, nous allons nous intéresser aux dizaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration. Nous serons avec l'économiste Mathieu Plane pour tenter de comprendre ce qui se passe dans ce secteur. A tout de suite, bonne journée à tous.
RTL événement.
Il est 7h20, merci à vous tous qui nous écoutez. Venons-en maintenant à notre RTL événement. Plus de 200 000 emplois vacants dans l'hôtellerie-restauration. C'est un chiffre affolant dans un pays comme la France qui vit notamment du tourisme. Nous allons faire le point avec l'économiste Mathieu Plane de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Mathieu Plane, merci d'être avec nous. C'est quoi le problème ?
Bonjour. Le problème, c'est la crise et puis c'est la désorganisation que ça peut créer sur le marché du travail, et en particulier dans un secteur comme l'hôtellerie-restauration. Qui a été extrêmement touché, qui a été fermé pendant plusieurs mois et qui a réouvert assez rapidement et qui a eu besoin de recruter beaucoup beaucoup de personnel en peu de temps, sachant qu'une partie des personnes qui travaillent dans ce secteur sont allées dans d'autres secteurs ou se sont retrouvées en situation de chômage partiel ou même au chômage.
Pourquoi sont-ils partis, excusez-moi, votre photographie est très claire, mais pourquoi sont-ils partis?
Oui. Alors c'est assez simple. C'est en fait d'abord il y a un flux très fort dans ce secteur-là. On voit à peu près un tiers des salariés qui bougent chaque année. Donc il y a une forte rotation de la main-d'œuvre. Et cette rotation a été d'autant plus élevée cette année, enfin l'année dernière et puis en début d'année, par le fait que ça a été fermé. Et donc il y a beaucoup, ce secteur a été fermé. Et ceux qui n'étaient pas forcément en chômage partiel, qui n'étaient pas couverts par le chômage partiel, des contrats plutôt courts, ont décidé du coup d'aller voir dans des secteurs qui recrutaient et qui potentiellement vous avez la possibilité d'être embauché. Ce qui fait que ils sont pas forcément revenus à la réouverture des restaurants, d'où les grandes difficultés de ces secteurs-là à recruter. On voit que cette désorganisation est importante et qu'il y a eu beaucoup beaucoup de création d'emplois à la réouverture et donc il y a des difficultés aujourd'hui encore à trouver du personnel.
La dernière fois que je suis allé au restaurant, le patron m'a dit qu'il ne trouvait pas d'employés mais qu'il avait 3 propositions par jour de travail au noir. Soyons clairs, ces métiers sont difficiles, on le sait, avec des horaires parfois compliqués. Est-ce qu'on préfère toucher le chômage ?
Alors, toucher le chômage, pour ça, il faut avoir suffisamment d'abord de cotisations. Donc, c'est une première chose. Je pense que ce secteur est surtout touché par une forme de précarité, hein, dans le sens, pas tous les métiers hein, de ce secteur-là, mais il y a beaucoup de contrats courts, par exemple, de saisonniers, qui n'ont pas forcément justement des durées de chômage qui sont très longues. Il y a beaucoup de jeunes, et donc qui vont être assez flexibles sur le marché du travail et qui vont s'adapter à cette demande. Et donc, effectivement, ils ne sont pas forcément fidèles à ce secteur-là. Ils vont aller là où on va les recruter. C'est aussi, ça peut être aussi des boulots complémentaires hein, pour certains étudiants. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de mobilité très forte de cette main-d'œuvre qui va aussi être dépendante de des propositions et des offres d'emploi qui vont être faites. Et on voit que c'est aussi un secteur où vous avez plus de 40% des gens qui sont effectivement payés au SMIC. Hein, quand en moyenne en France, les salaires c'est 13%. Donc on voit on a un secteur avec effectivement beaucoup de gens qui sont payés plutôt à des niveaux de salaire assez bas, souvent sur des contrats courts. Et donc c'est vrai que ce métier-là peut être intéressant, mais pas forcément attractif dans certains cas, surtout quand vous avez d'autres secteurs qui recrutent.
Il suffit de passer une tête en cuisine pour se rendre compte qu'une grande partie du personnel est souvent d'origine étrangère. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine façon, la France a abandonné les fourneaux au moment en plus où elle vient de récupérer son Bocuse d'or, hein, je le précise.
Alors, oui, alors...
C'est délicat ma question, mais c'est... voilà.
Oui, c'est délicat, mais je dirais pas totalement ça. C'est-à-dire qu'il y a, il va falloir d'abord voir un peu comment les choses se passent post confinement, parce que là, ces chiffres-là datent un peu. Enfin, ils sont vraiment à la sortie du confinement. On voit que l'été a été quand même assez dynamique pour ce secteur-là, mais que effectivement, les difficultés de recrutement existent et que pour un certain nombre de ces embauches, il va peut-être falloir augmenter l'attractivité de certains des métiers, en tout cas peut-être un peu mieux les rémunérer, ce qui pose des difficultés parce qu'on a beaucoup de petites entreprises, de PME qui n'ont pas forcément des marges de manœuvre très élevées, et ce qui effectivement, vous l'avez soulevé, pose la question aussi du travail non déclaré, du travail au noir, hein, pour justement contourner un certain nombre de fiscalité. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour ce secteur-là, qui est aussi un secteur important en termes d'emploi en France et qui est un secteur important en termes d'attractivité et notamment pour le tourisme.
Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h24, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Dans un mois, le 29 octobre, on célébrera les 40 ans de la disparition de Georges Brassens.
Oui, mort à l'âge de 60 ans d'un cancer de l'intestin, 100 ans après sa naissance, son aura dans la chanson française reste intacte. La preuve, des dizaines de livres et albums de reprises vont envahir les rayons. Brassens traverse le temps grâce à la sobriété des arrangements de ses chansons, guitare, voix, rien d'autre. Beaucoup pensent donc à tort que le répertoire de Brassens est uniforme, ce qui est faux. D'ailleurs, c'est un guitarero, Mathieu Chédid, qui vient de dévoiler une reprise de Brassens. M réinvente les copains d'abord, hymne à l'amitié, enregistré par Georges Brassens en octobre 1964, un bijou de composition plutôt complexe qui tend vers le jazz. Chanson de commande du réalisateur Yves Robert pour son film Les Copains avec Noiret, Riche, Mondy ou encore Bedos. L'amitié est thème que Brassens a souvent mis en musique. Cette fois, il avait truffé son texte de références culturelles et de citations. L'enregistrement avait été compliqué, hein, plus d'une dizaine de prises de voix et le tempo avait été accéléré au mixage final. Mathieu Chédid emmène lui Les Copains d'abord dans un univers plus rock et électrique.
Au moins de cool de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le corps. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS. On aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, qui avait pas. Son trou dans l'eau se refermait. Cent ans après, qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais la seule qui ait tenu le coup, qui n'est jamais virée de bord, virée de bord, virée de bord, naviguait en père peinard sur la grande mer de canard, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Des chœurs, de la batterie, ça change tout. Ouais. La reprise de M sera au générique d'un film. Là encore, on entendra cette version dans Le Trésor du Petit Nicolas en salle le 20 octobre.
Virée de bord, me virée de bord. Naviguait en père peinard
beaucoup Stephen Bell. Cette version me donne envie de rire. On retrouve nos grosses têtes avec Laurent Ruquier, les fake news et un point météo signé Louis Baudin dans un petit instant. A tout de suite, Louis Baudin. Je vois que vous avez été vous-même un peu surpris par la reprise.
Complètement.
Ah, bah c'est ça, les copains d'abord. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Allez, tout de suite, un petit tour avec nos grosses têtes. 24h sur 24 sur la radio Grosse Tête, disponible sur l'application RTL.
Suite à la lourde défaite aux élections sénatoriales des Français de l'étranger, Ségolène Royal a décidé de quitter la vie politique pour prendre la tête du Parti Socialiste.
François Rollin.
Agression. L'homme qui a lancé un œuf sur Emmanuel Macron dissimulait également 3 mouillettes dans sa ceinture.
Valérie Mérès.
L'association des lecteurs d'Éric Zemmour, rebaptisée les Zemmouroïdes, propose 10% de réduction dans tous les relais H.
Et ben voilà, vous les retrouvez dès 15h30 sur l'antenne d'RTL. Pour l'instant, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 29 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord cette crise énergétique sans précédent en Chine. Tout le pays est victime de coupures de courant monstrueuses. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est lié en grande partie au respect très strict des normes sur l'environnement. En attendant, Stéphane Pombrin, l'économie vacille et la population souffre.
Des ouvriers asphyxiés après l'arrêt du système d'aération, des feux de signalisation éteints, l'éclairage public supprimé, climatiseurs et ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Près de la moitié des provinces chinoises sont touchées par des pannes de courant. Mais ce sont surtout les gigantesques industries manufacturières du pays qui sont à l'arrêt. Des fonderies d'aluminium aux producteurs textiles, en passant par des sous-traitants d'Apple et de Tesla. Elles ont reçu l'ordre de réduire leur activité et parfois même de fermer purement et simplement. 44% de l'activité industrielle du pays est au point mort. Plusieurs banques ont déjà abaissé leurs prévisions de croissance pour la Chine cette année. En cause, la hausse de la demande en électricité, la flambée des prix du charbon et du gaz, mais surtout l'obligation de remplir les objectifs stricts de Pékin en matière de réduction des émissions carbone. Les provinces qui ont dépassé ces objectifs sont maintenant sous pression pour couper l'alimentation, quitte à faire disjoncter l'économie.
Stéphane Pambrin en Chine pour RTL. En France, selon les informations d'RTL, Bercy n'envisage pas de baisser la TVA sur le gaz malgré la hausse des prix. Cela dit, le gouvernement travaille à une nouvelle extension du chèque énergie.
Un hommage national sera donc rendu cet après-midi au caporal-chef Maxime Blasco, tué en opération Mali, et sa compagne parle ce matin sur RTL.
Oui, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de 7h. Alexandra souhaite se marier à titre posthume. Elle en parlera sans doute au président lors de la cérémonie aux Invalides, car lui seul peut accorder ce type de dérogation. Le père de Maxime Jean, Marc Blasco, assistera également à cet hommage qui s'annonce comme une nouvelle épreuve.
Je vais assister au dernier départ de mon fils.
C'est très dur.
Vous allez porter la cravate de votre fils lors de cette cérémonie.
Oui, c'est en mémoire. C'est ma belle-fille qui m'a dit, il y tenait.
Cette cravate, ça symbolisera le fait que vous êtes encore proche de lui, qu'il est en vous.
Il sera toujours en moi. Il savait que j'étais fier de lui. Alors, non pas parce qu'il est commando, non pas parce qu'il a fait tel ou tel acte. C'est le fait de dire, il est droit, il est respectueux. Chapeau bas.
Jean-Marc Blasco, micro RTL de Serge Puyot. La politique, Yannick Jadot sera le candidat écologiste à la présidentielle. Une fois n'est pas coutume, le favori l'a emporté dans la primaire des Verts, mais sur un score extrêmement serré, 51% contre 49% à Sandrine Rousseau, qui compte bien peser dans la campagne.
Je suis déçue, mais je suis fière. Enfin, 49-51, c'est un beau score. Au départ, je rappelle quand même qu'on me mettait à deux. Hein, donc, j'ai aussi une très grande fierté de ce qu'on a pu créer dans cette campagne. Et je crois qu'il faut l'entendre aujourd'hui.
Vous attendez des gestes là, de Yannick Jadot dans les jours qui viennent?
Bien sûr, hein. Je garde mon téléphone ouvert.
Sandrine Rousseau avec Marie-Bénédicte Allaire. Yannick Jadot est crédité de 6% des voix dans un sondage Harris Interactive pour Challenge. Mais ce qui frappe dans cette enquête, c'est la nette progression d'Éric Zemmour. Toujours pas candidat, il recueillerait 13 à 14% des suffrages au coude à coude avec Xavier Bertrand, 14%. Et tout proche de Marine Le Pen qui recule à 16% d'intention de vote. Emmanuel Macron obtiendrait entre 23 et 26%. C'est dans ce contexte que la France a décidé de durcir les conditions d'obtention des visas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Mesure de rétorsion, explique le gouvernement, car ces pays freinent les reconduites à la frontière. Décision politique, répond Patrick Berdugo, il est avocat spécialisé dans le droit des étrangers.
On veut nous laisser penser que les pays du Maghreb ne délivrent plus de laissez-passer
ou traînent des pieds à les délivrer après un an et demi de Covid. Donc c'est une mesure qui est a priori assez opportuniste, hein, puisque on sent que le gouvernement se sert d'une situation qui a peu de rapport pour essayer de mettre la pression sur ces pays-là en donnant l'impression qu'il va y avoir des effets durables, tout ça à quelques mois des élections présidentielles.
Un propos recueilli par Thomas Proutot.
À 7h35, le foot avec cette soirée quasi parfaite pour le PSG.
Victoire 2-0 sur Manchester City en Ligue des Champions avec notamment...
La frappe de Messi ! Et le but ! Léo Messi ! Léo Messi ! Léo Messi !
Un Philippe Sansfourche euphorique, oui, avec le premier but de Lionel Messi sous le maillot parisien. Ce succès permet au PSG de prendre la première place de son groupe.
Nous nous retrouvons à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous verrons que dans certains pays d'Afrique, les femmes sont prêtes à tout pour grossir, quitte à se mettre en danger.
Merci beaucoup et à tout à l'heure, à Isabelle. À l'heure. Dans un instant, on retrouve François Langlais qui analyse les raisons qui font flamber les prix du gaz. Petit point météo avec Louis Baudin.
Bah oui, quand même, donc, avec la pluie qui circule là actuellement. Au passage d'une perturbation, on la retrouve entre le sud-ouest, l'île de France et la frontière belge. Cet après-midi, elle s'étalera des Pyrénées aux frontières de l'Est. Alors, sauf tout près de la Méditerranée où, avec l'aide du vent, le ciel restera plus dégagé. Puis après le passage de cette perturbation, en cours d'après-midi, on retrouvera des éclaircies quasiment partout, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, de l'Atlantique jusqu'à l'île de France. Les températures en baissent malgré tout. 15 à 19 degrés cet après-midi dans la moitié nord, 19 à 22 dans le sud et encore 25 à 28 degrés près de la Méditerranée.
La semaine dernière, on disait l'automne s'installe. Aujourd'hui, l'automne est installé. Voilà. Allez, François Langlais.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, Langlais-Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, nous y consacrons beaucoup de temps ce matin sur RTL et c'est normal parce que ça concerne tous les Français. Derrière l'incroyable hausse des tarifs du gaz qui sévit en France et en Europe, il y a un pays et un homme.
Oui, la Russie de Poutine, qui fournit 41% du gaz consommé en Europe. Mm-hmm. Et qui a sensiblement réduit ses approvisionnements alors que la reprise mondiale dopait la consommation. Selon plusieurs experts cités par le quotidien britannique The Telegraph, la Russie l'a fait délibérément. Parce qu'elle veut faire pression sur l'Allemagne et sur l'Europe afin que celle-ci autorise la mise en service d'un gigantesque gazoduc qui traverse la Baltique. Mmh. Il s'appelle Nord Stream 2. L'ouvrage vient d'être terminé, il compte plus de 1000 km, il est sous la mer Baltique, il part de Russie près de Saint-Pétersbourg et il arrive à Greifswald, sur la côte de la Baltique en Allemagne du Nord, et il est au cœur d'un écheveau géopolitique où s'affrontent les grandes puissances d'aujourd'hui.
Bon, c'est un gazoduc russe.
Oui, et la Russie tient beaucoup à cet ouvrage, justement pour exporter son gaz en Europe, sans passer par les vieilles installations soviétiques qui traversent l'Ukraine. Vous savez, ce sont des tuyaux qui fuient et dont l'utilisation est facturée assez cher par le gouvernement ukrainien. Angela Merkel, la chancelière allemande, y tient également, tout comme l'industrie allemande, depuis que Berlin a décidé de sortir du nucléaire de façon improvisée et que les énergies renouvelables ne permettent pas de faire tourner les usines. Mais pendant plusieurs années, c'est Donald Trump, l'ex-président américain, qui a bloqué l'achèvement des travaux.
Mais alors, qu'est-ce que l'Amérique vient faire dans cette affaire ?
C'est à peine croyable, mais l'Amérique a en fait un droit de veto sur tout ce qui lui déplaît, où que ça soit. Trump redoutait, à juste titre d'ailleurs, que l'Allemagne ne s'installe dans la dépendance de Moscou, l'Allemagne et l'Europe. Et il menaçait Merkel de sanctions commerciales si elle passait outre. Sanctions commerciales qui auraient frappé les voitures, les Mercedes, les Volkswagen et autres BMW... pour lesquels les États-Unis sont un marché critique impensable. Mais tout a changé avec Joe Biden, qui lui a autre chose en tête. Il veut se rapprocher de la Russie pour éviter qu'elle ne fasse front avec la Chine contre Washington. Oui. Biden a donc autorisé Nord Stream 2 au début de l'été.
Mais ça veut dire que tout est bien qui finit bien ?
Pas si simple, parce qu'il faut maintenant que le gazoduc satisfasse aux réglementations allemandes et européennes.
Oula.
Bon, et là, il y a du boulot. Il faut par exemple que le propriétaire du tuyau le revende s'il veut l'utiliser. Il s'appelle Gazprom, c'est un russe, parce qu'en Europe, une même société ne peut pas en même temps posséder un gazoduc et vendre le gaz qui y transite. Pour compte de malchance, les élections allemandes sont intervenues dimanche dernier. Bon, il n'y aura pas de nouveau gouvernement avant Noël, donc pas d'autorisation sur un sujet aussi sensible. Et si le Parti des Verts, qui est anti-gazoduc, fait partie de la coalition allemande, les problèmes ne sont pas prêts d'être réglés. Du coup, les Russes s'énervent.
Bon, alors, ils ont la capacité de peser sur le marché.
Oui, 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 parce qu'ils ont réduit leur livraison de 25 milliards de mètres cubes. Et les restrictions russes sont intervenues justement alors que la demande repartait fortement. Et c'est pas fini. Un effet de ciseau qui a fait grimper les prix de marché et qui a toute chance de continuer à les faire grimper. Tout ça donne raison à Trump contre Merkel. Avant même que ce gazoduc ne soit mis en service, l'Europe, et l'Allemagne en particulier, sent la main de fer de Poutine sur sa nuque. Il va falloir désormais parler russe à votre compteur de gaz.
Merci beaucoup François Langlais et à demain matin. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Erwan Le Calvez, chef de corps du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars en Isère, pour évoquer bien sûr la mémoire du caporal-chef Maxime Blasco, mort en héros au Mali.
A tout de suite avec le colonel Erwan Le Calvez sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h44, merci à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le colonel Erwan Le Calvez, chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, auquel appartenait le caporal-chef Maxime Blasco. Il est décédé le week-end dernier en opération au Mali.
Bonjour colonel Erwan Le Calvez et merci de nous faire l'honneur d'être sur RTL ce matin. En ce jour d'hommage au caporal-chef Maxime Blasco, c'est vous qui commandez le 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. C'est vous donc qui commandiez Maxime Blasco. Colonel, il vous impressionnait, Maxime ?
Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui impressionnait, qui m'impressionnait moi, mais surtout qui impressionnait tout le bataillon. Et sa section commando en particulier, parce que c'était une personnalité un peu hors du commun. Et c'était quelqu'un qui rayonnait tout en restant humble. Donc c'était un peu l'apanage des grands hommes.
Oui, il a été décoré à plusieurs reprises de la Croix de la Valeur militaire. Et puis évidemment, tout le monde parle de ce sauvetage héroïque. Ses frères d'armes en parlent après le crash de leur hélicoptère en 2019. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire ce sauvetage de manière héroïque.
Non, c'est quelque chose qu'on rencontre, Dieu merci, peu souvent, parce que forcément, quand il y a un hélicoptère qui s'écrase, généralement, on ne s'en tire pas à si bon compte. Et pour le coup, le haut fait d'armes que Maxime avait fait avait permis de sauver les deux pilotes de Gazelle. Donc c'était effectivement quelque chose d'assez exceptionnel. Pour être souligné, c'est la raison pour laquelle il avait été décoré des mains du président de la République de la médaille militaire.
Comment il fait ça ? Enfin, de quel bois il était fait ?
Bon, je pense que c'est le bois de tous les grands soldats, enfin des soldats. C'est-à-dire que lui, en toute humilité, il disait j'ai fait que mon devoir. J'ai fait que ce que j'ai cru être bon d'être fait. Et ce qu'il a fait est certes exceptionnel. C'est réservé à une petite quantité de soldats, mais je pense que ce qu'il a fait, d'autres auraient également pu le faire, parce qu'on s'entraîne pour ça.
On rappelle qu'il a sauvé donc deux soldats blessés après le crash, c'est ça, de leur hélicoptère. Vous pouvez nous redire.
Exactement. Alors, il y a un hélicoptère à bord duquel il était qui s'est écrasé. Les deux pilotes et Maxime ont été grièvement blessés. Lui, il a eu des vertèbres qui étaient fracturées et l'hélicoptère avait pris feu et Maxime a réussi à extraire les pilotes de la carcasse en feu pour les amener jusqu'à un hélicoptère d'attaque auquel il les a accrochés et a permis du coup de les sauver et surtout de se tirer de cette mauvaise passe puisqu'ils étaient encerclés de terroristes qui a couru vers la carcasse en feu.
Et lui-même accroché.
Et lui-même accroché, exactement. Donc ça, c'est digne des...
C'est-à-dire que dans notre tête, on se dit qu'on voit ça que dans les films d'action.
Oui, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on voit aujourd'hui que dans les films d'action. Et à mon avis, de mémoire, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis relativement longtemps.
Alors, la mort d'un soldat d'élite, on l'a dit, comme Maxime Blasco, dont c'était d'ailleurs le quatrième engagement, me semble-t-il, dans la force Barkhane.
C'était son sixième engagement.
Sixième engagement. Oui. Évidemment, c'est une perte immense. Mais pardon de le dire aussi prosaïquement, colonel, c'est difficile de remplacer un soldat comme lui.
Alors, c'est difficile de remplacer la personnalité du soldat. Parce que c'est forcément, quand on commande 1200 personnes comme je le fais actuellement, c'est toujours déchirant de perdre quelqu'un. Après, tous nos soldats sont formés pour aller au combat et donc la mission doit continuer. Donc oui, la perte de Maxime est un déchirement pour le bataillon, pour les troubles montagnes en général et pour le groupement commando montagne. En revanche, la mission doit continuer parce que c'est un, notre mission de soldat, et deux, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Maxime Blasco.
Comment ils ont réagi d'ailleurs ? Comment vos troupes on parlait de... Alors, de cette perte.
Le gros de la section commando est actuellement au Mali. Donc forcément, eux, ils accusent le coup, hein, mais parce qu'ils ont perdu un de leurs frères d'armes. Mais pour autant, ils veulent retourner au combat parce que ils estiment que c'est leur devoir. Donc ils se lamentent pas sur leur sort. Au contraire, ils veulent y retourner parce que la mission doit continuer. Mmh. Et ensuite, j'ai un groupe qui est actuellement sur le bataillon et qui accompagne la veuve de Maxime, donc qui permet vraiment d'entourer toute la famille et de l'aider à faire son deuil.
Quand vous dites entourer, c'est-à-dire quoi? Il y a des échanges, ils se voient, ils sont ensemble?
Oui, bien sûr, il y a des échanges. Alors, il y a d'abord tout un dispositif qu'on met en place au bataillon, hein, avec des référents de famille, des médecins, des psychologues, et aussi les compagnons d'armes qui entourent la famille, puisque comme le bataillon est une grande famille, et bien les compagnons d'armes associent souvent leur famille aux différentes activités, et donc les compagnons d'armes entourent la famille de Maxime.
La mort est intégrée, en vérité, dans...
Oui, la mort fait partie du métier, c'est une des hypothèses de travail. Donc quand on est engagé en opération, évidemment on n'y pense pas tous les jours.
Il en parlait, lui ?
Oui, il en parlait, puisque de toute façon il l'a frôlé, à plusieurs reprises. Alors certes, au cours du crash de l'hélicoptère, mais aussi dans les contacts qu'il a pris avec l'ennemi, il était effectivement confronté à la mort à plusieurs reprises.
À ce niveau-là, à votre niveau, colonel, vous n'avez peur de rien ?
Peur de rien. Je pense que avoir peur de rien, ce serait nous mettre en danger, ce serait de l'inconscience. Donc évidemment, quand on est engagé en opération, on a une appréhension qui permet de peser le pour et le contre des décisions qu'on va prendre. Dire qu'on a peur de rien, ce serait de l'inconscience.
Colonel, avec la mort de Maxime Blasco, c'est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013. Et vous savez que lorsqu'on interroge les Français aujourd'hui, ce qu'ils nous disent dans les sondages, à peu près la moitié d'entre eux sont opposés à la présence française. Ce que dit l'opinion, vous y êtes sensible ?
Alors moi, personnellement, ce que dit l'opinion, je vous avouerai que c'est pas de mon ressort de me prononcer dessus. Je pense qu'il faut expliquer aux Français quelle est notre participation aujourd'hui au Sahel. Et je pense que la participation de la France au Sahel nous permet quand même de combattre l'islamisme, à la fois pour les Maliens, mais aussi également pour les Français, pour éviter que des djihadistes viennent sur le sol français commettre des attentats.
Donc la présence française est nécessaire ?
Elle est nécessaire.
Elle est indispensable ?
Bien sûr, elle est indispensable. Et il n'y a qu'à voir les deux dernières... on a coupé quelques têtes quand même de grands groupes jusqu'à très récemment, avec la neutralisation de Awad. Et donc, on a réussi à neutraliser la tête de ces groupes terroristes pour éviter qu'ils répandent la terreur comme ils veulent le faire au Mali, mais aussi dans toute la bande sahélo-saharienne.
Vous l'avez pris comme un affront, les propos dernièrement du Premier ministre malien qui dit que la France est désengagée sur place.
Je vais pas commenter ce que dit le Premier ministre malien. En revanche, je vais commenter le fait qu'on parle de désengagement. La France ne fait pas un désengagement au Mali, la France se réorganise au Mali, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin d'être mouvant sur le terrain pour pouvoir avoir une action qui soit la plus efficace possible. Et donc, on réorganise la force Barkhane, bien évidemment, notre dispositif.
En tout cas, la ministre des Armées, Florence Parly, a vivement réagi aux propos du Premier ministre malien. Le Premier ministre malien qui a fait appel à un groupe de mercenaires russes dont on dit que c'est un groupe militaire officieux, occulte du Kremlin, le groupe Wagner. C'est une force qui est compatible avec la force française ?
Alors, je ne les ai jamais côtoyés en opération
extérieure.
Non, pas du tout, je ne les ai pas côtoyés. Ouais. Donc pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments sur le dispositif de Wagner ou autre groupe paramilitaire en Afrique.
En tout cas, merci beaucoup, colonel Erwan Le Calvez, d'avoir été parmi nous pour évoquer la mémoire du caporal-chef Maxime Blasco. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La mort de Maxime est un déchirement, mais la mission doit continuer. C'est le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre. Ce sont les propos du colonel Erwan Le Calvez, chef du bataillon de chasseurs alpins, auquel appartenait le caporal-chef Maxime Blasco. Merci Alba Ventura. Votre entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h55, Philippe, bonjour.
Ouais. Oui.
Je vous sens affecté, c'est quand même pas la défaite de Sandrine Rousseau qui vous met dans cet état-là. Non,
on perd quand même une belle promesse de rigolade. Oh, je suis déçu. Pourtant, Sandrine Rousseau nous a juré il y a 4 jours qu'elle allait gagner la présidentielle. Déjà une promesse non tenue, on a bien fait de pas voter pour elle, tiens. Sandrine, vous quittez l'aventure. L'équipe des Verts a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Yannick, vous remportez le totem d'immunité. C'est vous qui êtes désigné pour aller faire 2% à la présidentielle. Donc félicitations à Yannick Jadot. Yannick Jadot. Yannick Jadot. Non, Véronique Jadot et Yannick Jadot. Comment il s'appelle? Jadot.
Yannick Jadot.
Félicitations, Cédric Jadot. Yannick Jadot pour sa victoire. Comme disait Alba, qui confirme, choisir quelqu'un qui a le charisme d'un salsifi, ça fait sens pour représenter les Verts.
Bon, alors, on fait un tour à Marseille où la grève des éboueurs continue.
22e année consécutive. Bravo les gars. Alors, quand on est petit, c'est vrai, on rêve tous d'être éboueur quand on trouve cool d'être accroché à l'arrière du camion. Et puis après, en grandissant, on se renseigne sur les salaires. Et puis on rêve plus d'être footballeur ou présentateur météo ou journaliste vedette de matinale. En tout cas, éboueur, c'est pas un métier facile. Passer ta journée à trimballer des débris d'un point A à un point B, ça s'appelle donc éboueur ou chauffeur pour la tournée achetant des têtes de bois.
Alors, les agents veulent travailler 28 heures, payer 35.
Ah, on l'entend moins.
Si c'était 28, ce serait déjà bien.
On l'entend moins sa grande gueule à Martine Aubry avec ses 35 heures. Esclavagiste, Martine. À Marseille, on a inventé les 28 heures. Alors le problème des poubelles à Marseille, c'est le parti fini. Hein, quand tu avais fini de bosser, tu pouvais te barrer. Du coup, les chauffeurs roulaient à 130 dans les rues de Marseille. Les gars auraient mieux fait d'être pilote chez McLaren. Niveau salaire, ils auraient gagné. Alors, ils démarraient la journée à 6h et finissaient vers 6h15. Bon, vous me direz, je peux rien dire, je bosse 4 minutes 15. Donc, les éboueurs marseillais sont en grève, mais les dealers marseillais font des heures sup. Donc, l'un dans l'autre, ça équilibre.
Ouais, oui. Voilà. Alors, la France a vendu 3 frégates à la Grèce pour un montant d'environ 3 milliards d'euros.
Vous voyez, donc 56 milliards de perdus, moins 3 milliards. On a perdu que 53 milliards, finalement. On remonte un peu la pente. Attention, ne nous réjouissons pas trop vite, quand même, c'est la Grèce qui achète. Si vous voulez, c'est comme si on signait un contrat pour vendre 300 kilos de caviar à un SDF. C'est pas sûr qu'on voit le pognon derrière, quoi. Ce serait bien aussi de mettre un petit astérix en bas du contrat. SVP, ne pas nous niquer cette fois-ci. Cela dit, la Grèce va mieux. Et c'est pas pour nous vanter, mais c'est un peu grâce à nous, Yves. Avec ce qu'on a claqué comme thune à Mykonos, au prix du Spritz et du Moscow Mule. C'est vrai. Finalement, l'Australie nous a dit d'aller nous faire voir chez les Grecs. Et nous, bonne patte,
On y est allé.
Allez, alors un petit truc sérieux. On a écouté l'hommage au courage immense de Maxime Blasco. Je vous rendre grâce à RTL, un hommage national à un jeune ado qui m'a bluffé pendant un an, mon pote Luciano de Nice, 16 ans. Il faisait partie de l'association contre les cancers pédiatriques que je parraine, l'association Léo. Oui. Luciano, qui opère la maladie, disait aux extraordinaires infirmières de l'Archer à Nice, ça va bien, petit menteur, ça allait pas bien, il était en soins palliatifs. Il avait juste l'élégance de faire semblant d'aller bien. Il rêvait d'être DJ. Cet été, mes amis Sébastien Drums et Nicolas Andréa lui ont fait rencontrer Bob Sinclair, qui était adorable. Il l'a accueilli sur scène en plein concert à Fréjus devant 8000 personnes. Un dernier grand kiff. Merci Bob Sinclair. Luciano est parti hier. Je ne crois pas, Yves, que ce soit complètement le hasard si des destins de Maxime et de Luciano se croisent ce matin. La vie, l'actu nous offre des gens à admirer. Il faut juste pas se tromper d'idole. Maxime et Luciano méritent d'être admirés et qu'on se souvienne d'eux, pas longtemps, mais toujours. Je pense à la maman de Luciano ce matin, son petit frère, sa meilleure amie Alicia et ses 18 girlfriends. C'était un séducteur compulsif, un putain de Latin lover, un petit Mexicain. S'il vous plaît, disons merde ensemble au cancer, faisons un petit signe d'en bas. En faisant un don à l'association Léo pour lui montrer qu'on continue la bagarre. Il n'aurait pas aimé qu'on soit triste, ça c'est raté, Luciano, et il aurait adoré qu'on finisse en musique avec Bob Sinclair qui a été extraordinaire avec lui. Vamos, Luciano!
L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55. Merci de nous faire rire et de savoir aussi nous émouvoir avec l'association Léo. Léo Luciano, on rappelle son nom. Merci beaucoup.
Merci.
On va passer à notre météo, Louis Baudin.
Oui, pas facile.
Elle est comment?
Effectivement, elle est pluvieuse, là, notamment sur les régions du Nord, au passage d'une perturbation qui va se décaler vers l'Est cet après-midi. On la retrouvera des Pyrénées aux frontières de l'Est avec donc des nuages, de la pluie. La Méditerranée sera épargnée avec du Mistral et de la Tramontagne. Puis après son passage, quand même, le soleil va revenir. C'est le cas sur la Bretagne. Bretagne, puis ça sera le cas sur toutes les régions situées au nord de la Loire, près de l'Atlantique. Retour de belles éclaircies cet après-midi, même chose en Ile-de-France. Les températures, 15 à 19 degrés dans la moitié nord. Oui, ça baisse, hein, malgré le retour des éclaircies cet après-midi. 19 à 22 degrés dans la moitié sud, pas plus. Non, il n'y a que près de la Méditerranée, où on dépassera encore les 25 degrés.
Merci beaucoup, Louis. À tout de suite pour notre journal de 8 heures. Il est 8 heures.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, l'appel poignant de la veuve de Maxime Blasco.
Alors qu'un hommage national sera rendu cet après-midi au caporal-chef tombé au Mali, sa compagne demande à Emmanuel Macron d'autoriser leur mariage à titre posthume. L'espoir d'une famille, celle de Maud, maréchal, tuée il y a 8 ans alors qu'elle rentrait de soirée. Aucun mobile, aucun suspect. L'affaire sera au cœur ce soir de la nouvelle émission d'M6. On en parle dans un instant. À suivre également ce sondage qui fait s'agiter la droite jusqu'à 14% d'intention de vote pour Éric Zemmour. Payer son gaz moins cher, c'est encore possible. L'une des solutions, c'est l'achat groupé. Nous allons vous expliquer. La brigade RTL au cinéma. Stéphane Boutsock nous dira tout, presque tout, sur le dernier James Bond. Et puis Lionel Messi qui marque enfin au Parc des Princes. C'était hier soir, victoire 2-0 du PSG face à Manchester City.
Votre surf de l'info, Cyprien Signy.
Les mésaventures de Sanofi et de son vaccin ARN.
On va se retrouver dès la fin du journal.
RTL Matin.
Elle s'appelle Alexandra, elle a 37 ans et cet après-midi, elle sera présente aux Invalides pour rendre hommage à son compagnon, Maxime Blasco, caporal-chef tué en opération au Mali la semaine dernière. Paxé, ils ont eu ensemble un enfant, Ethan, 8 ans, et c'est elle qui a dû annoncer au jeune garçon la mort de son papa. À la fois dignée et pudique, elle a accepté de se confier au micro de Serge Pueyo à quelques heures d'une cérémonie qu'elle attend et qu'elle redoute.
De voir le cercueil de visu, ça va prendre encore une toute autre dimension, même si on le sait, il est vrai que c'est quand même compliqué de réaliser. On a l'impression d'être dans cette phase de déni où on se dit c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais non, à chaque matin, c'est toujours pareil. Même si au fond de moi, je le sais que c'est fini, il n'est plus là.
Qu'est-ce que vous avez dit à Ethan justement pour lui annoncer malheureusement la mort de son papa ?
Je lui ai dit la toute première phase, ton papa t'aime plus que tout. Papa va revenir, mais pas comme tu l'imagines. Maintenant, c'est une belle étoile dans le ciel. Je voyais qu'il mâchouillait le coin du coussin et du coup, c'était compliqué pour lui. Donc, il a fallu que je mette les mots, que je sois un petit peu plus brutale. Je lui ai dit, ton papa est mort. Et après, de lui-même, dans la soirée, il a tenu à savoir comment. Il a compris.
Et Tan était fier de son papa ?
Complètement. Son papa, c'était le plus fort. On lui a acheté une petite boîte avec des gommettes, des feutres pour qu'il puisse dessiner, mettre ce qu'il voulait dessus. Je vais lui imprimer des photos de lui avec son papa tout seul, de nous trois, pour que ça puisse être mis dans le cercueil et que ça l'accompagne dans son dernier voyage.
Un témoignage recueilli par Serge Pueyo, Alexandra qui demande ce matin sur RTL au président de la République d'accepter son mariage à titre posthume avec Maxime Blasco. Seul le chef de l'État peut valider cette décision. L'entretien de la jeune femme est à retrouver en longueur sur notre site RTL.fr.
RTL 8h03, ce mystère à présent qui dure depuis plus de 8 ans, la mort non élucidée de Maud Maréchal.
En mai 2013, cette jeune femme de 20 ans est retrouvée brûlée vive dans une rue de Lagny-sur-Marne en région parisienne. L'affaire Maud Maréchal sera ce soir au cœur de la nouvelle émission d'M6, s'appelle à témoin. C'est le deuxième numéro, diffusé à 21h05. 8 ans après les faits, les enquêteurs n'ont toujours aucun témoin, aucun mobile, aucun suspect. Alors ils vont tenter ce soir de remonter une nouvelle fois la piste de cette nuit du 14 mai 2013, alors que Maud s'apprête à rejoindre la maison de ses parents, Guillaume Chiez.
Oui, cette nuit-là, Maud vient de passer la soirée avec des amis. C'est la dernière à partir, à pied. Elle n'habite qu'à quelques centaines de mètres de là. Aux alentours de 3h du matin, des voisins entendent un cri strident. Ils appellent la police. Sur place, ils retrouvent le corps de Maud à moitié calciné. 8 ans plus tard, le meurtrier n'a toujours pas été identifié, mais Françoise, sa mère, ne désespère pas.
Cette enquête, elle est beaucoup trop longue pour moi, évidemment. 8 ans. Mais j'espère que ça va aboutir. Donc je souhaite que ces personnes qui savent des choses, même qui passent anodines, qu'elles aient le courage de se lâcher et d'aller le dire, témoigner. J'espère qu'on trouvera le meurtrier, je le souhaite.
Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont interrogé différents suspects. En vain, toutes les analyses techniques, la téléphonie, les prélèvements qui ont été faits sur place n'ont rien donné. Reste l'espoir que l'appel à témoins lancé ce soir sur M6 apporte de nouvelles pistes aux enquêteurs.
Guillaume Chies pour RTL.
Et justement, appel à témoins ce soir sur M6, je recevrai à 8h20 Philippe Guichard, qui est commissaire général et adjoint aussi directeur de la lutte contre la criminalité organisée.
200 000 postes à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le Covid et les différents confinements ont fait des ravages en salle comme en cuisine. La reprise est là, mais les candidatures ne suivent pas. Reportage dans l'établissement du chef parisien Alain Géham, confronté lui aussi à ce dilemme. Pierre Herbulot.
4 salariés à trouver en 3 semaines, c'est la mission impossible du chef Alain Géham. Il n'arrive pas à constituer une équipe pour son nouveau restaurant qui doit ouvrir mi-octobre.
Je commence à être dans l'urgence. C'est beaucoup d'investissements, c'est 5 mois de travaux, c'est des crédits pendant une actualité un peu compliquée pour la restauration.
Les seuls CV qu'il reçoit viennent de son Liban natal, sauf que les procédures d'embauche d'étrangers sont longues et complexes. Le chef demande à ce qu'elle soit simplifiée.
Franchement, on a besoin de ça, on a besoin de tout le monde. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne le fait pas, parce que c'est compliqué, parce qu'on finit tard, parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Il faut dire la réalité des choses. C'est comme ça. En fait, avant, on mettait des règles d'exigence, que maintenant, on a commencé à diminuer notre exigence. À la fin, on est en train de dire, mais juste si tu as envie de travailler dans la restauration, bon, c'est pas grave, tu n'as pas d'expérience, sinon on te le montre. On est arrivé jusqu'à cette poste-là.
Dans son premier restaurant, c'est déjà grâce à une main-d'œuvre en partie étrangère qu'il sort ses plats.
Pakistanais, Indiens, Bangladesh, c'est des gens qui ont envie de bosser.
Comme Alain Géham, arrivé à Paris il y a 20 ans sans parler un mot de français et aujourd'hui récompensé par une étoile au guide Michelin.
Un reportage de Pierre Herbulot.
On lui souhaite du succès et surtout de trouver des collaborateurs. La politique avec ce sondage Harris pour le magazine Challenge qui vient de confirmer une nouvelle fois l'ascension d'Éric Zemmour qui n'est, je vous le rappelle, toujours pas candidat.
Mais désormais crédité de 13, voire même 14% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle, au coude à coude avec Xavier Bertrand et même devant Valérie Pécresse. Marine Le Pen en fait également les frais puisqu'elle perd 3 points dans ce sondage à 16%. Pour la première fois hier soir, Emmanuel Macron a directement fait allusion à la percée d'Éric Zemmour. Alors que le chef de l'État visitait le chantier de rénovation de la Bibliothèque de France, il s'est exprimé sur l'identité française. Écoutez-le, c'est court, mais sans équivoque.
Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation.
Rétrécissement à des prénoms, référence à peine masquée à la polémique lancée par Éric Zemmour sur les prénoms étrangers en France.
Un autre président, celui-là n'est plus en exercice, s'est également exprimé sur le cas Zemmour.
Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est intéressant parce que les sondages le montrent. Le polémiste qui défend des thèses radicales d'extrême droite trouve également un écho auprès de l'électorat de la droite, disons plus traditionnel. Alors Zemmour est-il un danger? Pour Nicolas Sarkozy, il est surtout l'illustration de la pauvreté du débat actuel.
Il n'est pas la cause du vide. Il est le symptôme. Il est le symptôme. Je pense que la pression d'une pensée unique est telle qu'il a fini par vider le débat de ce qui était vraiment fondamental et essentiel. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. Et donc, il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes. Il faut s'attaquer pour redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès, ni dans les extrêmes.
Nicolas Sarkozy, hier chez nos confrères de CNews.
Il est 8h08, l'achat de gaz en groupe, une manière de réduire la facture. Alors comment ça marche? On vous explique tout cela dans quelques instants sur RTL.
RTL Matin.
8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors comment faire baisser sa facture d'énergie? C'est la question que se posent de très nombreux consommateurs avec la flambée récente des prix.
Il y a pourtant quelques solutions. Réduire sa consommation en est une, évidemment. Comparer les offres aussi, c'est un moyen de faire parfois des économies substantielles. Et puis il y a cette méthode testée, notamment à Ramonville, près de Toulouse, en Haute-Garonne. L'achat groupé afin d'obtenir de meilleurs tarifs. Et ça fonctionne, Patrick Hisson?
Oui, depuis cet été, les foyers qui participent à ce groupement d'achats impulsé par la commune ont vu leurs factures diminuer. Christophe Lubac est le maire de Ramonville.
En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que les citoyens se rassemblent pour être plus forts vis-à-vis de fournisseurs. Un groupement d'achat permet, et là ça a été 550 foyers, qui ont pu avoir du poids au travers d'un organisme avec lequel on s'est associé pour négocier un contrat. C'est 10 à 15% d'économie annuelle de sa facture d'énergie.
Alain Caral est l'un des bénéficiaires de ce nouveau contrat.
La meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais avec le groupement d'achat, ça fait entre 100 et 150 euros, ça dépend de la consommation, mais on est à peu près dans ces eaux-là, de réduction quoi, de facture. Pour une famille modeste, ça veut dire qu'ils peuvent investir ailleurs, dans l'éducation, dans les loisirs, dans autre chose, plutôt que de le mettre dans l'électricité.
L'autre valeur ajoutée de l'accord conclu avec le fournisseur est de disposer d'une électricité 100% verte, et l'ambition est désormais d'étendre ce dispositif au gaz avec là aussi une énergie 100% renouvelable.
Reportage de Patrick Hisson. Et puis selon les informations de RTL, sachez que Bercy n'envisage pas de baisser la TVA sur le prix du gaz, mesure pourtant réclamée par plusieurs associations de consommateurs.
Alors attention, roulement de tambour, après quasiment 2 ans d'attente et de report en raison de la pandémie, le dernier James Bond a bien été dévoilé hier soir à quelques milliers de spectateurs privilégiés.
Mourir peut attendre, c'est le titre du dernier opus de la saga qui sortira mercredi prochain, le 6 octobre, sur nos écrans. Et une fois n'est pas coutume, eh bien la brigade RTL s'est rendue au cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à cette projection événement dans un cinéma des Champs-Élysées. Première question Stéphane, alors.
Bon, il y a ce que je peux vous dire et ce que je ne dois surtout pas dire. Vous dire que Mourir peut attendre n'est pas le meilleur James Bond, Skyfall restant à mon humble avis insurpassable, mais qu'il est un rouage essentiel de la saga. Vous dire que sans esbrouf, mais avec brio et profondeur, on y parle surtout d'amour, de famille, de trahison, de vengeance et d'adieu. Vous dire que vous y verrez 2 séquences d'ouverture en une, que vous voyagerez en Italie, en Finlande, en Jamaïque, à Cuba, à Londres ou dans le Pacifique, que vous y croiserez 2 méchants, mais aussi 2 007, James Bond et une agente, le film étant d'ailleurs très féminin. Vous dire enfin que le péril est cette fois bactériologique, lié à l'ADN, le reste, c'est à vous de le découvrir mercredi prochain.
Alors, Mourir peut attendre rejoint d'ores et déjà, Stéphane, la grande histoire des films maudits. Sa sortie au cinéma n'avait même plus rien d'évident il y a encore quelques mois.
En fait, ça s'est joué à 600 millions de dollars, somme que le studio MGM, qui possède la marque 007, demandait, dit-on, pour vendre ce 25e Bond à une plateforme de streaming. La transaction, heureusement, n'a pas abouti. Ultime péripétie depuis le lancement du projet en 2018. Un premier réalisateur, Danny Boyle, débarqué, remplacé, Daniel Craig qui se blesse à la cheville. Survient le Covid, la sortie de Mourir peut attendre est décalée 4 fois de l'hiver 2020 à cet automne 2021. Problème, une marque de portable qui a payé une fortune pour apparaître à l'écran exige qu'on retourne les scènes où son téléphone, devenu obsolète, apparaît. Bon, finalement, on y est. Seule certitude, Craig tourne la page. Qui le remplacera ? Réponse attendue l'an prochain avec la mise en chantier du 26e épisode.
Pour l'instant, c'est le 25e. Mourir peut attendre, sorti au cinéma mercredi prochain. Merci Stéphane Boutsock.
Ça y est, il a enfin marqué. Lionel Messi a permis hier soir au PSG de l'emporter 2-0 face à Manchester City.
Et de figurer ce matin en tête du groupe A. C'est la Ligue des Champions, la star argentine qui inscrit son premier but et le Parc des Princes qui s'enflamme. Nicolas Georgerot, vous avez vécu l'événement et cette victoire parisienne.
Le Parc des Princes s'est levé et a chaviré. À un quart d'heure de la fin, Lionel Messi a placé cette frappe en pleine lucarne après un relais avec Mbappé. Son 4e match parisien, son premier but qu'il évoque ici au micro de Canal+.
Je suis petit à petit en train de m'adapter à ma nouvelle équipe, à mes coéquipiers. Ce qui est important, c'est d'avoir gagné, c'est de continuer à grandir.
L'Argentin a pris le temps de savourer, de saluer toutes les tribunes. Son point rageur montrait son soulagement. Les supporters comme Christian et Rachid ont profité du moment.
Déjà au départ de l'action, on était en haleine. On s'est dit il va le faire. Et il a planté le but, mais incroyable.
Il suffit de deux passes et il y a un but qui arrive. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime Messi. C'est parce qu'en 30 secondes, il peut nous faire rêver. Et j'espère qu'il en fera beaucoup d'autres au PSG.
Un éclair dans une rencontre qui n'était pourtant pas sa meilleure prestation depuis son arrivée. Messi va encore monter en puissance.
Nicolas Georgerot. Et puis notez l'improbable défaite hier soir du Real Madrid dans le groupe D, battu à domicile 2-1 par la petite équipe moldave du FC Sheriff Tiraspol.
Les Moldaves du FC Sheriff Tiraspol, on les découvre, donc autant dire leur nom plusieurs fois. C'est assez sympathique. C'était le journal de Dominique Tenza. Nous nous retrouvons à 9h pour le point d'actualité. Évidemment. Dans un instant, Cyprien Sini surfe avec les mésaventures de Sanofi.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est 8h18, bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez donc ce matin avec les mésaventures de Sanofi.
Eh oui, quelle déception. En plus, on était tout excités hier quand le monsieur de Sanofi a commencé son annonce.
Encouragé par les résultats positifs de cette phase 1-2 sur l'ARN messager, qui nous montre des résultats positifs de séroconversion, donc cette plateforme d'ARN messager fonctionne.
Mais oui, il nous dit que ça fonctionne, et là on se dit...
Enfin.
Enfin, on y arrive, la France qui gagne, ça marche. Sauf qu'en fait,
Sanofi met fin à ses essais pour un vaccin
ARN.
Eh oui, maintenant qu'on y arrive, eh ben on arrête, hein. Bizarre quand même ça. Et là, chez les spécialistes de la spécialité, on nous explique...
Ça sonne véritablement, si vous voulez, le toxin de l'échec de l'écosystème de la France.
Échec. Alors déjà en France, hein, on dit plus échec, on dit...
Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Voilà, on dit ça n'a pas marché. Et encore là, c'est même pas que ça marche pas, parce que le monsieur de Sanofi dit que ça marche. Non, Sanofi arrête son vaccin ARN car...
Car il arriverait trop tard sur le marché.
Eh oui, en fait, chez Sanofi, c'est un peu comme avec Johnny sur le Dakar.
Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Eh ouais. Bon, après, je vous entends, Johnny, là. Hein. Les déclinistes, ceux qui disent que la France, ça ne marche pas, eh bien... Que nenni, parce que sur le vaccin vintage, celui sur la technique du vaccin à l'ancienne, sans ARN, sans 5G, tout ça, on est encore dans la course. Eh oui, monsieur, dame.
On est en phase 3 avec notre vaccin recombinant, adjuvanté.
En phase 3 avec le vaccin vintage sans sulfite. On l'aura bientôt, celui-là. C'est promis. Bon, après, on s'emballe pas non plus. Hein. Je vous rappelle que chez Sanofi, le 15 novembre 2020, sur CNews, il y a presque un an, on nous annonçait ça.
En décembre, on va lancer la production. Donc au mois de juin, on aura déjà plusieurs millions de doses.
Ouais, plusieurs millions de doses.
Jusqu'à la super coupe.
Ouais, voilà. Et finalement...
Mauvaise nouvelle pour les groupes français et britanniques. Oh. Sanofi et GFK. Les premiers essais sont moins bons que prévu.
Oh. Donc on va y aller mollo. Hein. Mais chez Sanofi, je vous rassure, on a déjà un coup d'avance.
Sur l'ARN messager, le besoin de santé publique, il est de prévenir les prochaines pandémies. L'innovation, les prochaines pandémies...
Mais oui. Maintenant qu'on sait... Maintenant qu'on est prêt à la prochaine pandémie, on sera sur le coup. Enfin, on espère. Hein.
On a passé un excellent moment. Merci Cyprien. On vous retrouve donc sur RTL.fr et ce soir à 18h40.
On défait le monde avec toute l'équipe.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans un instant, nous serons avec Philippe Guichard. Il est commissaire général adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée. Nous allons évoquer le nouveau numéro de l'émission Appel à témoins diffusé sur M6 ce soir. À tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
Il est 8h24, bonjour Philippe Guichard.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes commissaire général adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée. Ce soir sur M6, dès 21h, donc un nouveau numéro de l'émission de Julien Courbet et Nathalie Renaud. Quel bilan avez-vous fait tout d'abord de la première émission ?
Un bilan positif, forcément. C'est toujours intéressant pour nous, pour les services d'enquête, de remédiatiser des dossiers anciens, des cold cases comme on dit. Vous savez que cold case, ça veut tout dire et rien dire. Il n'y a pas de définition juridique, mais... On voit bien ce que ça veut dire quand même. Un dossier froid, un dossier sur lequel...
Où ça bouge plus ou pas.
Voilà, les services sont un petit peu enlisés et donc il est important de remédiatiser ces affaires parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un témoignage clé, même longtemps après les faits.
Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, a indiqué ce matin que 731 appels et 150 témoignages avaient été reçus grâce à l'émission. La médiatisation, dans certains cas, est positive.
Alors oui, incontestablement. D'abord, c'est un acte d'enquête, de faire un appel à témoins.
Oui.
Et puis d'expérience, on voit bien qu'à un moment donné, on peut bénéficier d'un témoignage clé, même longtemps, voire très longtemps après les faits.
Est-ce qu'il y a des personnes dont on peut dire qu'elles ne savent pas qu'elles savent quelque chose ? Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Absolument, oui. Ça arrive très souvent. Même un détail, un mini-détail nous intéresse. Et ce détail, on peut l'obtenir grâce à une émission de cette nature. Parce que tout d'un coup, la personne en question s'aperçoit que, oui, elle a vu quelque chose.
Est-ce qu'il est facile d'identifier rapidement ce qui n'est pas sérieux dans les signalements, les fantaisies, voire les mythomanies, et puis voilà, l'élément qui peut faire bouger ?
Oui, oui, c'est assez simple, effectivement, d'identifier ce qui ne va pas dans les appels à témoins. Mais ce n'est pas très grave.
Oui.
Vous savez, on peut avoir 100, 200, 300 appels. Bon, du moment qu'on en ait un qui soit bon, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui nous importe véritablement.
Alors, quelles sont les trois affaires que nous allons pouvoir suivre ce soir ?
Alors, j'en connais deux précisément, puisqu'il y en a une qui est traitée par la Gendarmerie nationale, les deux autres étant sous la coupe de la police judiciaire.
Oui.
Enfin, ce sont des saisines de la police judiciaire. Ce sont des affaires emblématiques de la police judiciaire, traitées par la police judiciaire, qui sont des cold cases, clairement, puisque le premier cas date de 2011, le deuxième de 2013, et ce sont des dossiers qui sont un petit peu en souffrance, mais des dossiers qui concernent d'une part une disparition d'enfants et d'autre part un meurtre abominable, même un assassinat, puisque c'est prémédité abominable d'une jeune femme de 21 ans.
Maud Maréchal retrouvée à demi calcinée, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Aspergée d'essence et brûlée vive dans la rue.
La famille n'a aucune information.
La famille n'a pas d'informations. Il y a déjà eu, vous l'imaginez bien, beaucoup d'investigations sur ces deux affaires. Des témoignages, un certain nombre de témoignages, mais pas de témoignages clés qui ont pu permettre d'avancer solidement et de solutionner cette affaire, ces affaires.
Concernant la disparition de l'enfant, que pouvez-vous nous dire ?
La disparition de l'enfant, c'est un cas un peu particulier. Son père l'a enlevé. Ça ne fait aucun doute, il a été jugé pour ça, condamné à 20 ans lourdement, déjà. Mais qu'en a-t-il fait ? Personne ne le sait. Il l'a enlevé, il avait le droit de le prendre en charge, puisqu'il était séparé de son ex-femme. Il devait rendre l'enfant le deux jours après, le dimanche soir, à 18h. Il ne l'a jamais fait, on n'a jamais revu l'enfant. Il est parti faire un périple un peu dans toute la France, d'abord en voiture et puis après à pied. Qu'a-t-il fait au cours de ce périple ? C'est une vraie question qui se pose et on espère obtenir des témoignages ce soir. Essayer de trouver quelqu'un qui aurait pu le voir seul ou accompagné de son fils.
J'insiste sur la première émission, au moment où nous parlons, il y a des... Enfin, je ne sais pas si on peut dire s'il y a des affaires qui sont relancées, mais il y a des éléments qui vous ont fait avancer d'une façon ou d'une autre.
Alors, sur la première émission, on est en cours de vérification d'éléments.
C'est aussi long que ça. Enfin, je veux dire, c'est la preuve du travail de fourmi qui doit être fait.
Mais oui, parce qu'il faut quand même travailler longuement pour vérifier les informations reçues. Hein.
Oui.
Alors, il se trouve que sur le dossier Lucas, qui a été évoqué lors de la première émission, on a retrouvé le corps peu de temps après. On ne peut pas dire que l'émission ait eu un impact direct, mais en tout cas, on pense qu'on peut obtenir des informations à analyser au cours de ces émissions, ça ne fait aucun doute.
Une dernière question, sincèrement, comment vous êtes-vous embarqué dans une pareille aventure télévisée, publique ? Ce n'est pas exactement le genre de la police habituellement, hein, on est bien d'accord.
Écoutez, c'est un peu une émission presque de service public, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça, parce que, je vous disais tout à l'heure, c'est un acte d'enquête, l'appel à témoins, et on voit bien qu'à une heure de grande écoute, ça vaut le coup de se lancer dans ce genre de choses, puisque... L'objectif, il est clair, c'est trouver la solution à ces cold cases, essayer de solutionner des histoires.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la parole. Pour contacter l'équipe de l'émission, je vous le rappelle, 0800 10 11 21, 0800 10 11 21. C'est gratuit, c'est anonyme, ou par mail, appelatemoin@m6.fr, appelatemoin@m6.fr. Rendez-vous donc ce soir sur M6 dès 21h pour Appel à témoin avec Julien Courbet et Nathalie Renoux. Merci beaucoup, Philippe Guichard. Je rappelle que vous êtes commissaire général et adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée. Bonne journée à vous et surtout, bonne soirée télévisée. Vous êtes le bienvenu. Louis Bodin, notre météo à 7 jours.
Oui, avec beaucoup de choses encore au cours de ces prochains jours. Alors déjà aujourd'hui, on a dit une perturbation est en train de traverser la France. On la trouvera dans l'Est cet après-midi, dans le Sud, sauf près de la Méditerranée. Les éclaircies reviendront à l'arrière. Cette nuit, cette perturbation nous quittera. Et donc demain, retour d'un temps sec et ensoleillé partout, avec probablement quelques brouillards demain matin qui devraient se dissiper. Mais donc demain, du temps sec et ensoleillé. On range de nouveau le parapluie. Alors côté température, attention, on pourrait bien avoir, si le ciel se dégage la nuit prochaine, les premières gelées ici ou là. On lancera pas très loin quelques gelées blanches dans le centre ou encore dans le nord-est. Temps sec et ensoleillé que l'on retrouvera également dans la journée de vendredi, avec là aussi quelques brumes, brouillard le matin et ensuite du soleil. Puis en fin de journée arrivera déjà une perturbation avec des nuages, de la pluie, renforcement du vent sur le littoral de la Manche. Et ça annonce un week-end assez dégradé, enfin en tout cas assez désagréable.
Faites avec des nuages. Attention au choix des mots.
Oui, c'est ça, mais bon, voilà, oui. ça se dégrade. Voilà, avec des nuages, de la pluie et du vent. On pourrait bien avoir un premier coup de vent, une petite tempête là, qui va circuler sur la moitié nord, y compris dans les terres, avec des rafales de vent qui dépasseront les 100 km/h. Bon, on va affiner évidemment cette force, mais...
Je dois aller à Lille, moi, ce week-end.
Ça sera venteux. Si vous prenez un parapluie, il faudra soit très solide, parce qu'effectivement, c'est là où on aura les plus fortes rafales, et puis de la pluie qui devrait nous accompagner tout au long du week-end. Forte pluie par moment, et ça pour samedi et dimanche, et ça finira par donner un petit peu de neige en montagne, parce qu'avec tout cela, évidemment, les températures vont continuer à baisser.
Dites-moi, je vous avais entendu nous parler d'une possible tempête ce week-end.
C'est ça, c'est une première tempête. Pourquoi ? Parce qu'elle va être très étendue. Et effectivement, elle devrait balayer toute la moitié nord. Alors, on va affiner de jour en jour la force attendue, mais on dépassera les 100 km/h.
Mais comment peut-on annoncer une tempête 4 jours avant ? Enfin, pardonnez-moi, je rappelle
non,
que
mais
c'est une prévision.
Vous avez raison, parce qu'effectivement, tout au long de l'été et même durant le mois de septembre, on a eu du mal à faire des prévisions de date de 3 jours. Oui, mais là, petit à petit, on revient à une situation un peu plus classique, si je puis dire. Vous avez vu les perturbations.
Stable dans l'instabilité.
Voilà, exactement, les perturbations qui reviennent par l'Atlantique. Alors là. Et avec cette situation, on arrive à faire des prévisions un peu plus justes. Bon, restons modestes, on va voir si ça se vérifie quand même.
Merci beaucoup Louis Baudin. Avant 9h, une recette de brownie avec Cyril Lignac. Nous serons aussi avec Laurent Gérard et son équipe, mais dans un instant, le Liban, Beyrouth, où l'enquête sur l'explosion du port continue de piétiner.
RTL, revivre ensemble. RTL autour du monde.
Il est 8h34, RTL autour du monde au Liban ce matin, où un dernier rebondissement dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth vient de se produire. Bonjour Chloé Doma.
Bonjour.
Cette explosion au port a fait, je le rappelle, 220 morts et 6500 blessés. 6500 blessés en août 2020. Chloé, le juge d'instruction, Tarek Bitar, a été suspendu lundi. Que s'est-il passé ?
Alors, il faut savoir que l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth est un dossier particulièrement sensible au Liban. Cet été, le juge d'instruction en charge de l'affaire a convoqué plusieurs responsables politiques afin de comprendre la chaîne de responsabilité qui a mené au drame. Mais ceux-ci ont refusé de se présenter devant la justice, brandissant des immunités parlementaires. Le juge pensait profiter d'une levée temporaire de ces immunités à l'automne pour arriver à ses fins, mais après de nombreuses menaces, son enquête a finalement été suspendue lundi. Pour les familles des victimes, c'est une nouvelle défaite. On écoute Tanous et William Noon, le père et le frère d'un jeune pompier décédé lors du drame.
Je suis abattu. Je ne peux pas accepter. Nos jeunes sont morts et les politiciens sont encore en train de se disputer. Nous, on veut la vérité. On veut savoir qui est responsable. Dans notre pays, il n'y a pas de justice.
Toutes les familles de victimes pensent pareil, mais les jeunes ont encore de l'espoir. C'est ce qu'ils veulent, qu'on baisse les bras, qu'on arrête de demander justice. Mais nous, on va continuer.
Et face à cette situation, des manifestations sont attendues en fin de semaine à Beyrouth.
Si le travail de la justice est si difficile, c'est que la situation politique reste très tendue malgré la formation d'un nouveau gouvernement. Vendredi dernier, le Premier ministre libanais était à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Najib Mikati peut-il redresser le pays ?
Compliqué. À 65 ans, Najib Mikati, l'un des hommes les plus riches du Liban, qui a déjà été Premier ministre à deux reprises, reprend les rênes du pouvoir après 13 mois sans gouvernement. Pour resituer un peu, le Liban est l'un des pays les plus endettés au monde. 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. Et pour beaucoup, le seul espoir aujourd'hui, c'est de partir. Les autorités libanaises n'ont jamais autant délivré de passeports et les ambassades étrangères croulent sous les demandes de visa. Najib Mikati doit donc redresser tout un pays en chute libre. Pour ce faire, il a besoin d'aide internationale et c'est là qu'on entre dans un bras de fer qui dure en réalité depuis mars 2020 quand le Liban a cessé de rembourser sa dette. D'un côté, la communauté internationale, la France en tête, veut bien aider mais à condition que le pays entame des réformes de fond. Et pour le moment, la classe politique libanaise, l'une des plus corrompues au monde, refuse.
RTL autour du monde ce matin au Liban. Merci beaucoup Chloé Doma. Et pour encore plus d'international, rendez-vous sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Lune.
Il est 8h37 et ce matin, Isabelle Choquet, vous nous emmenez en Afrique, l'Afrique où les femmes sont victimes du culte de la rondeur.
Oui Yves, ici notre bande-son, c'est plutôt ça.
Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes.
Rester dans les normes, des normes où la beauté c'est la minceur, une silhouette svelte et musclée. On fait d'ailleurs des efforts de dingue pour se tailler un summer body qui entre dans des maillots de bain tout rikiki. Mais en Mauritanie ou au Nigeria, eh ben, c'est une autre chanson.
Vive les grosses dames, 225 kilos, vive les grosses dames.
Et en Afrique, l'idéal, c'est la rondeur, une silhouette tout en courbe, format sablier, poitrine généreuse, hanches larges et surtout des grosses fesses, ça plaît aux hommes. Les corps charnus, les bourrelets sont symboles de force et de personnalité, mais ce diktat de la rondeur pose finalement les mêmes problèmes que le culte de la minceur, car pour empâter, les femmes sont prêtes à tout avaler, y compris des potions miracles franchement douteuses. J'ai vu ça dans le magazine Flush. Ça va des stéroïdes animaux aux produits à base de cortisone, produits qui servent à engraisser les bovins ou les chameaux, en passant par les crèmes, les pilules contraceptives, les sirops et plus globalement tous les antihistaminiques, car l'un des effets secondaires, c'est de stimuler l'appétit. Le phénomène n'est pas nouveau. Il y a 20 ans déjà, dans le New York Times, une nigérienne expliquait « Si votre femme n'est pas bien en chair, les gens diront que vous ne prenez pas bien soin d'elle. Quand les femmes n'ont pas les moyens de manger suffisamment riche, eh bien elles vont au plus vite, elles achètent des produits chimiques. » C'est ainsi qu'en Mauritanie, près d'une femme sur cinq est obèse. Évidemment, cela pose tous les problèmes habituels liés au surpoids, plus quelques autres provoqués par les produits eux-mêmes. On signale des cas d'hypertension, de diabète, des maladies cardiovasculaires, des déformations osseuses et même des cas de stérilité. Parfois, cela mène tout simplement à la mort. On ne prend pas sans risque des produits pour le bétail. Non. Mais les femmes n'ont pas conscience du danger ou elles choisissent de l'ignorer. Les autorités tentent de réguler tout ça. En 2010, une loi a durci les peines de prison pour le commerce illégal des médicaments qui font grossir. Mais ces potions magiques du gras se trouvent toujours très facilement sur les marchés, en pharmacie et évidemment sur Internet. Un business difficile à estimer car l'essentiel passe par le marché noir. Il y a les produits chimiques et une pratique d'un autre âge qui subsiste encore, le gavage. Officiellement, il est interdit depuis une vingtaine d'années, mais une femme sur cinq en serait toujours victime, surtout dans les campagnes. Dès l'âge de 6 ans, parfois même plus tôt, les gamines sont obligées de boire chaque jour plusieurs litres de lait de chamelle, d'avaler des bouillies hypercaloriques ou de prendre jusqu'à 10 repas par jour. L'objectif, c'est le mariage, souvent précoce. Le gavage doit rendre les filles belles et bonnes à marier. C'est d'une rare violence psychologique. Et puis, bien sûr, c'est violent pour le corps. Ça laisse des traces, insuffisance rénale, complications à la grossesse ou à l'accouchement. L'idéal de la beauté bien en chair reste encore très ancré. Selon un dicton local, la femme occupe dans le cœur de l'homme la place qu'elle occupe dans son lit. Ça pourrait tout de même changer car les magazines diffusent de plus en plus les normes de beauté occidentale, notamment une silhouette de liane. Bon, ça peut faire contrepoids. Il ne faudrait pas non plus que ça devienne une nouvelle obsession. Grossir à tout prix, article pioché dans le magazine Flush.
C'est très impressionnant. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin, Isabelle.
Avec plaisir, à demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça au Mureau, dans les Yvelines, ce matin. L'enseigne Le Petit Épicier rouvre ses portes. Après 15 mois de fermeture, Hamid, ses frères et sœurs ont décidé de reprendre cette affaire familiale après le décès de leur papa, emporté par le Covid à l'âge de 73 ans. Bonjour Gauthier Abdelon-Bugard.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes allé au Mureau pour constater qu'il n'était pas question pour la fratrie de laisser la supérette à l'abandon.
La photo en noir et blanc est accrochée à côté de la caisse. Ce cliché raconte l'histoire de l'épicerie familiale rachetée il y a 34 ans par Mohamed Youssoufi dans la rue principale des Mureaux.
Là, il y a une photo en 89 qu'on peut voir avec du passage ici au centre-ville, avec un chameau, comme vous pouvez le constater lors d'un carnaval.
Il y avait un chameau, c'est original.
Exactement. Donc ici au Mureaux, on voyait qu'il y avait une certaine joie de vivre.
Voilà. 30 ans plus tard, Hamid, le fils cadet et les autres enfants reprennent la boutique, investissent 50 000 euros, une devanture orange vif, un intérieur moderne, tout a été refait à neuf.
Sur votre droite, vous avez la partie surgelée. Poisson, viande, plat préparé, c'est du neuf, il n'y a rien. Pour nous, reprendre cette boutique, tout remettre à neuf, c'est pour nous un devoir.
Hamid vient de terminer ses études de commerce. Il n'avait pas forcément prévu de reprendre aussi vite l'affaire familiale, mais la pandémie a tout changé.
Il est décédé donc, parmi les premiers morts du Covid.
À la sortie du premier confinement, son papa est frappé par le Covid. Après 2 mois de réanimation, Mohamed décède brutalement.
Oui, on a tous été touchés. Ça a été difficile pour nous, mais voilà, on a aussi notre maman qui a su nous donner de la force pour continuer et ne pas baisser les bras. Donc après le décès du papa, le 12 juin 2020 exactement, on s'est décidé de reprendre la boutique.
T'as besoin d'un sac ou ça va aller ?
Comment ? Ce n'est pas que financier en fait. Bon, ici on investit pour l'image du papa qu'il a laissé, donc pour ne pas laisser à l'abandon la supérette. C'est pour lui, c'est pour rendre hommage au papa et du coup faire perdurer son histoire.
Quelques jours après le décès de leur père, les enfants décident d'assurer des livraisons pour les résidents de l'EHPAD des Mureaux. Abderrahmane se souvient.
Les plus vulnérables déjà sont les personnes âgées. Pour nous, c'était très important de réaliser ce geste-là.
Un geste solidaire pour honorer la mémoire de leur père. À l'arrière de la boutique, une porte violette mène à un grand appartement. C'est là que vit la famille.
Merci de nous accueillir.
Nous rencontrons Zaïna, la maman.
Vous êtes fiers de vos enfants, de ce qu'ils font ?
Ils travaillent bien, oui. Très content.
Tout pour la maman. Ouais. Maintenant, c'est tout ce qui nous reste, notre maman. Et une maman qui est fière de son fils, il n'y a pas mieux.
Au Mureau, l'épicerie installée à côté du cinéma de quartier est une institution. Moustapha travaille en face.
Le premier jour qu'ils ont ouvert, j'ai dit, il faut que je sois un des premiers clients pour vous encourager. J'avais pas besoin, mais j'ai quand même acheté quelques affaires. Première nécessité,
Mais j'ai trouvé ça beau, j'ai dit faut que les encourage.
Dans la rue principale, de nombreux rideaux restent baissés. Redonner vie à ce commerce, c'est aussi redynamiser le centre-ville.
On a besoin de belles enseignes comme ça au centre-ville pour que ça attire de la clientèle. Parce qu'ici, on a tous besoin les uns des autres. Eux, ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux. C'est comme ça, on s'encourage et on s'entraide.
Hamid prévoit désormais une grande inauguration. Toute la ville sera invitée. Une tradition d'hospitalité à l'image du slogan affiché sur la devanture orange de père en fils depuis 1987.
Merci beaucoup Gauthier de Lombugard. On était parti avec vous au Mureau dans les Yvelines. Dans un instant, Laurent Gérard et Mademoiselle Jade.
RTL Matin, 7h-9h30 avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. La mythique émission C'est mon choix, après sa diffusion sur France 3, Chérie 25, Teva et Énergie 12, a trouvé refuge sur YouTube où elle est toujours présentée par Evelyne Thomas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jackie et Eric, deux hommes courageux qui ont décidé de se lancer dans la bataille pour la présidentielle de 2022, où ils sont candidats malgré leur handicap, car c'est leur choix. On commence avec vous, Eric Ciotti.
Bonjour madame.
Alors vous, Eric Ciotti, votre choix, c'est que vous vous êtes jeté à l'eau pour la présidentielle, malgré ceux qui ont tenté de canarder votre candidature.
C'est vrai qu'il y a eu des couacs, mais je n'ai pas pris l'eau. Je nage et je ne coule pas.
Que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous êtes le vilain petit canard de la droite ?
Je réponds que les moqueries me glissent dessus comme l'eau sur les plumes d'un...
Eh bien, merci Eric Ciotti pour ce témoignage bouleversant qui prouve qu'un canard boiteux peut être candidat à la présidence.
Mais je ne suis pas un canard.
Je me tourne maintenant vers notre deuxième témoin, c'est Jackie Chiasson, maire d'hiver droite de la Fistinière. Alors, Jackie, être candidat, c'est votre choix, et c'est un choix courageux, car vous avez décidé de vous présenter malgré votre accent.
Pouillon, mais qu'est-ce qu'elle dégoise, là ? Elle n'a pas envie d'aller faire la soupe ? Non, mon accent, mais quel accent ?
Je veux parler de ce joli petit accent provincial qui pourrait vous handicaper lors de la campagne.
Ah bon, bah, première nouvelle. On ne fait plus campagne sur ce qu'on défend maintenant, mais comment qu'on cause ? Mais moi, c'est mon programme que je vais défendre. Mais si je suis élu, vous ne pas venir chouiner comme un coissou.
Rappelez-nous votre programme, Jackie. On l'a oublié. Et en français courant, s'il vous plaît.
Oh, Bosseigne, elle a oublié mon programme. Oh, bah, c'est pas les bonnes femmes, ça. Ça oublie tout. Vous avez remarqué ? Le code de la carte bleue, c'est pour ça, elles le retiennent. Hein. Ah, oh. Allez. Ouais. Hein. Le code de la carte bleue, elles le retiennent, mais c'est pas comme le code de la route. Hein. Alors, c'est pour ça que mon programme, c'est d'éviter le grand remplacement des bons hommes par les bonnes femmes. Ça, c'est mon choix. Alors, votez Chiasson dès le premier tour.
Je crois que notre premier invité voudrait intervenir. Oui. On vous écoute, Eric Ciotti.
Je voudrais dire à M. Chiasson qu'il n'y a aucune chance que je l'invite à se rallier à ma candidature. Fouillon, mais qu'est-ce qu'il raconte, le Donald, là ? Il va finir par nous donner la lourde. Mais on va en faire du pâté de sa candidature. Au déjeuner, c'est encore bien bon, le pâté. Hein ? Le pâté de canard, hein ? Mais je ne suis pas un canard.
Voilà, merci à tous. La semaine prochaine, sur notre chaîne officielle YouTube, notre thème sera « J'élève des écrevisses dans mes toilettes, c'est mon choix ». On compte sur vous.
C'est vrai que c'est encore bien bon sur les écrevisses. Moi, j'aime bien.
En cette rentrée littéraire, l'ancien président Nicolas Sarkozy se distingue avec son dernier ouvrage intitulé « Promenade », dans lequel il déclare sa passion pour l'art. Naturellement, son épouse, Carla Bruni, et sa fille Giulia ont été les premières à entendre ce grand cri d'amour. « Oh, mon président, ton nouveau livre marche très fort à la librairie de Neuilly. C'est une très bonne idée de parler de ton goût pour la culture. Ça te change des procès. »
Tu sais, ma mozzarella, si j'ai écrit « Promenade », c'est parce que les gens, ils me connaissent mal. À cause que j'écoute du Didier Barvelivien, ils croient que j'aime pas l'art. Alors que c'est le contraire. Entre l'art et le cochon, j'ai toujours choisi l'art.
Oh, que bello, piccolo mio. Je, moi aussi, en Italie, la culture, c'est molto importante. Chez nous, à casa mia, on avait des Botticelli sur le mur.
Botticelli. Attends, mais quelle coïncidence. Moi aussi, j'avais un poster de Botticelli sur mon mur du temps qu'il jouait à la Juventus de Turin.
Non, je Je crois que tu confonds mon espresso. Mais voilà notre petite Julia qui a des questions à te poser pour faire ses devoirs.
Mais bien sûr, ma Julietta. Vas-y, je t'écoute.
Dis, papounou, la maîtresse, elle veut qu'on explique pourquoi que la Vénus de Milo qui est au Louvre, elle n'a pas de bras.
Hein? Que quoi? La Vénus à Milo, elle n'a plus de bras? Ben, tu sais ce que tu vas lui répondre à ta maîtresse?
Oui.
Tu vas lui dire que c'est un coup de la juge du parquet national financier qui lui a confisqué. Quelle indignité!
Oh, mon nervosette, on ne dénove pas! Au lieu de penser à tous tes procès, pense plutôt à la culture. Tu sais bien que c'est ta passion, la culture.
Tu as raison, ma Fiat Panda. Tiens, on va faire notre petite chorale familiale. Ça va me calmer.
Oh oui, cantiamo tutte insieme. C'est toi qui commandes, Giulietta. Très. 4.
Mon papa, il a dit qu'il adore la culture, qu'il a tout lu Musso, la comtesse de Ségur.
J'ai écrit que Rubens et toute l'école de Bruges, c'est très décoratif, ça nous change des petits juges.
Mon mari l'a dit dans son livre Promenade.
C'est papa qui a dit, c'est pas des salades.
Serait-ce possible alors?
C'est charmant.
Ah! Ah, 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 j'entends quelques notes familières. Je pense que nous avons la visite de l'intarissable André Manoukian. Bonjour André.
Salut Jade. Tu sais, j'aime beaucoup ton nouveau poncho tout bigarré, tout chamarré. Oh là là, je sais pas ce qu'il a ce piano. Il est vraiment
quoi?
Minable. Je crois que j'aurais pas dû le laisser à l'entre-sol,
André, vous n'allez pas passer la matinée à accorder votre piano.
Non,
je suppose que si vous êtes là, c'est pour nous raconter l'histoire secrète d'une chanson.
Mais oui, alors aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire secrète de la chanson d'Indochine, J'ai demandé à la Lune.
Oh là là.
Tu la connais?
Ah oui, je la connais.
J'ai
demandé à la Lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la Lune s'est moquée de moi.
Tu sais, Chad, j'ai vu passer plein de candidates à la Nouvelle Star, mais avec toi, je transpire de la moustache. T'es perché quelque part entre Nicoletta et la voix qui parle dans les GPS.
Ah oui.
Tu devrais demander à Benjamin Violette de te composer un album.
Eh ben, j'y penserai, André, merci beaucoup. Revenons à J'ai demandé à la Lune d'Indochine.
Alors oui, j'ai demandé à la Lune. Alors j'ai envie de dire que Nicolas,
Sirkis, le leader du groupe Indochine, je présume.
C'est ça, Nicolas, Sirkis.
Oui.
Il en avait marre qu'on se moque de sa coiffure avec sa grande mèche noire sur le côté. Alors il a décidé de changer de coupe. Il a demandé à la Lune une idée.
Ah, étonnant, et alors?
Alors, comme il est écrit dans la chanson, elle a dit « J'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça ». Tu te souviens?
D'accord, et donc?
Tu te souviens? Eh ben, Nicolas Sirkis, il a insisté.
Oui.
Et finalement, il s'est fait une coupe lunaire lui-même.
Lunaire?
Ben
c'est-à-dire?
Oui, t'as vu sa coupe?
D'abord,
il s'est désépaissi. Ah ben, il n'y a plus de si dans le piano. Il se déconne ce piano. Et après, il s'est bourri. Le fa aussi, il faut le trouver.
C'est donc pour ça qu'il a adopté cette coupe.
Voilà, t'as tout compris. C'est pour ça qu'il a l'air, du coup, avec cette coupe, con comme la Lune.
Écoutez, merci André pour cette très belle histoire de coiffure et de chanson.
Tu sais, j'ai envie de citer Gilles Deleuze, qui a dit « En coiffure comme en amour, l'important, c'est l'arrêt. »
C'est pas plutôt Gilles Verdès qui redit ça.
Bah, tu sais, en musique, quand t'as un piano, tu peux raconter n'importe quoi. Ça marche pas, il n'y a même plus de notes.
Merci André.
Oui, merci André, me semble une bonne conclusion. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve à chaque instant, vous le savez, sur le site rtl.fr. Cyril Lignac est avec vous. Non, oui. Ah oui, Brownie. Non, je ne trouve pas la note. Brownie. Il sera à quoi votre brownie?
Caramel avec des noix de pécan caramélisées.
Ah bah très bien.
Chocolat.
Ah voilà quand même, parce que j'avais annoncé au chocolat.
Chocolat et noix de pécan caramélisées.
Merci
à l'intérieur.
Merci de ne pas me ridiculiser devant toute la France. Dans un instant, la recette de brownie de Cyril Lignac sur RTL.
RTL Matin. Yves Calvi.
8h58, je ne vous raconte pas ce qui se passe parce qu'on est en train d'acheter des vaches maintenant avec Cyril Lignac. Bien. Alors, venons-en à l'essentiel. Une question de Lou qui vit à Boulogne-Billancourt, 92-92, Hauts-de-Seine. Je fais souvent ta recette de brownie, elle vous tutoie, mais je n'arrive pas à faire ta recette de caramel. Ah bon ? Alors, quand je mets les noix de pécan dedans, ça cristallise au lieu de les caraméliser. J'ai besoin de reprendre les bases d'un caramel. Voilà une question précise.
Voilà. Alors, allez-y, justement, pour pas que ça cristallise, il faut déjà bien faire un caramel et bien nettoyer sa casserole. Ah. Parce que c'est souvent les petites impuretés. Il peut y avoir des.
Vous êtes en train de dire Lou qu'elle fait mal sa vaisselle.
Non. Mais parfois.
Va te laver, on verra après. Non,
mais parfois, il peut y avoir des résidus dedans. Ça fait cristalliser le caramel. Donc, bien. On met 20 g d'eau, 80 g de sucre, on remue délicatement et après, on ne touche plus au caramel. C'est souvent quand on met la cuillère dans le caramel, on y apporte de l'oxygène. Ah, voilà. Et là, ça fait cristalliser.
D'accord.
Donc, une fois que le caramel est entré, alors déjà pendant que ça boue un petit peu, que ça devient caramel, on met les 125 g de noix de pécan, on les met au four. Pour déjà les torréfier.
C'est ce que j'allais vous dire.
Ensuite, on les met à l'intérieur du caramel, on les enrobe. Là, on les dépose sur une plaque avec un papier silicone ou un papier sulfurisé. Et là, on a cette masse de caramel et de noix de pécan. On laisse refroidir. Pendant ce temps, on va préparer le brownie. Donc ça, c'est assez simple. Dans une casserole d'eau chaude, on met un saladier pour faire un petit bain-marie. On met 125 g de beurre, 60 g de chocolat au lait et 5 g de chocolat noir, parce que j'aime bien couper
les deux.
Absolument. Si on veut plus chocolat noir, on met que du chocolat noir.
Voilà.
Et moi, j'aime bien un peu de gourmandise. On mélange dans un autre saladier. On met deux œufs avec 150 g de sucre que l'on bat. Et on mélange le beurre et le chocolat. On mélange la totalité des choses. On ajoute 40 g de farine, un petit peu de fleur de sel.
Toujours un petit peu de sel dans la pâtisserie.
Ça, c'est mon petit secret. Et là, on coule à l'intérieur du plat. On prend les noix de pécan caramélisées, on les coupe en petits morceaux, on les dispose au fond et on le met au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Les noix de pécan sont à l'intérieur, le caramel fond, ça nous fait un petit chocolat caramel un peu gourmand croquant.
Eh bien, je vais vous gourmand croquant, c'est merveilleux. C'est la signature de Cyril Lignac.
Parce qu'il est croquant.
Ça a l'air très sympa, votre histoire. Merci beaucoup. Et l'intégralité, et les étapes, et le détail de la recette sont sur RTL.fr. Merci beaucoup, Cyril. À demain matin. Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenzar.
Et d'abord l'hommage à Maxime Blasco, le caporal-chef tombé au Mali la semaine dernière. Cérémonie aux Invalides cet après-midi en présence du chef de l'État et de la veuve du militaire Alexandra qui s'exprime ce matin sur RTL pour demander à Emmanuel Macron d'autoriser son mariage posthume. Seul le chef de l'État peut prendre une telle décision. Le gouvernement n'a pas l'intention de baisser la TVA sur les prix du gaz et ce malgré les 57% d'augmentation depuis le début de l'année. C'est une information RTL. Un geste que réclamaient pourtant plusieurs associations de consommateurs. Bercy est en train de travailler sur une extension du chèque énergie. La victoire serrée hier de Yannick Jadot au terme de la primaire écologiste. Il l'emporte d'une courte tête devant Sandrine Rousseau. 2000 voix d'écart à peine. Malgré leur vision et leur approche différente de l'écologie, ils n'auront pas d'autre choix que de faire campagne ensemble. Aux Canaries, la lave du volcan entrée en éruption il y a 10 jours sur l'île de La Palma a finalement atteint l'océan dans la nuit dernière. Un phénomène redouté par les experts car potentiellement dangereux. Toujours pas d'accord entre Paris et Londres à 48 heures de l'expiration de dizaines de licences de pêcheurs français. Londres annonce l'octroi de 12 autorisations supplémentaires, loin du nombre réclamé par la France. L'accord post-Brexit prévoyait que les pêcheurs européens pourraient continuer à se rendre dans les eaux britanniques à condition d'obtenir la précieuse licence. Et puis le Paris Saint-Germain l'a emporté hier soir 2-0 face à Manchester City. Jolie victoire au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions avec un but de Lionel Messi. Le premier sous les couleurs du maillot parisien, le PSG qui figure ce matin en tête de son groupe.
Et ce point de l'actualité nous était proposé par...